BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Guillaume Paul.
18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a bien sûr la situation en Nouvelle-Calédonie. L'état d'urgence a donc été décrété, mais les émeutes ont déjà fait 4 morts et beaucoup de dégâts évidemment. On va bien sûr largement vous en parler ce soir sur BFM Business. Sinon, question, la France est-elle beaucoup plus attractive que ses voisins européens ? Il y a 48 heures à Choose France, on nous disait que oui, bien sûr, sans aucune contestation, sauf que figurez-vous qu'Amazon a annoncé aujourd'hui un investissement en Allemagne 6 fois supérieur à ce qui avait été annoncé lundi dernier pour nous dans l'Hexagone. On va vous raconter tout ça, on en parlera bien sûr avec nos experts qui arrivent dès 18h30. Avec eux, on parlera également aussi de MaPrimeRénov', nouvelle version, énième version qui vient d'entrer en vigueur aujourd'hui, ainsi que du déplacement très attendu d'Emmanuel Macron demain du côté de Flamanville. Pour une fois, il devrait y avoir des bonnes nouvelles. Voilà le programme, 18h10 auparavant. C'est Maurice Lévy, le président de Vivatech, qui sera l'invité d'Eddy Chevalier. Ça commence mercredi dans une semaine, Vivatech et BFM Business, il sera bien sûr. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc la Nouvelle-Calédonie, pour commencer, Emmanuel Macron, je vous le disais, a demandé au gouvernement de décréter l'état d'urgence sur place alors que le bilan des émeutes est passé à 4 morts. L'île est à feu et à sang, on ne compte plus le nombre de bâtiments, de magasins, d'entreprises qui ont été brûlés ou saccagés. Écoutez par exemple ce témoignage, celui de ce gérant de plusieurs concessions auto basées à Nouméa. 3 de ces concessions ont pris feu. La facture va être très très lourde, écoutez.
Certaines concessions brûlent en ce moment. Qu'est-ce qu'il en restera demain matin ou tout à l'heure ? La moitié, rien. D'autres concessions, notamment une ou deux, sont encore totalement intactes. Est-ce que ça va être le cas à la fin de la nuit ? Aucune idée. Donc, chiffrer, c'est très difficile. Ce sont évidemment des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros. L'économie va mettre un bon moment à se remettre. Des hypermarchés ont brûlé, il va falloir les réapprovisionner, sauf que la chaîne est un petit peu cassée, la chaîne de réapprovisionnement. Même si on réouvre demain, enfin, d'abord, j'aurai pas de clients, évidemment, puisque les gens auront d'autres soucis, mais au-delà de ça, toute l'économie va mettre un petit moment à redémarrer dans beaucoup de secteurs.
Voilà Laurent Jandot, dont 3 concessions automobiles ont brûlé à Nouméa, qui nous dit qu'il y a pour plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts. Obama, bonsoir Léo Dumas.
Bonsoir.
Évidemment, le gouvernement tente de ramener le calme parce que des personnes meurent, bien sûr, mais aussi, il faut le dire quand même, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est une position française mais absolument prépondérante dans la région Indo-Pacifique, Léo.
Oui, car la zone, en fait, c'est la plus dynamique du monde, de l'Inde à la Nouvelle-Zélande, en passant évidemment par la Chine, l'Indonésie ou encore l'Australie. Cette région va peser pour 50% du PIB mondial en 2040, c'est ce que nous dit le FMI. Pour la France, c'est donc un atout d'être présente dans l'Indo-Pacifique. Sa puissance passe notamment par l'énorme domaine maritime. Sur les presque 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime français, eh bien, plus de 10% sont autour de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, cela fait notamment de l'archipel un point d'appui pour l'armée française. Les effectifs et les capacités navales sont d'ailleurs en train d'y être renforcés. 400 militaires de plus d'ici à 2030. De quoi raffermir la souveraineté française, mais aussi coopérer avec les alliés régionaux. Quand dans le même temps, vous avez la Chine qui exerce une pression croissante dans le Pacifique. Pression d'abord militaire avec des exercices fréquents en mer de Chine notamment. Et aussi des luttes d'influence dans plusieurs petits états, notamment pour récupérer les ressources naturelles. Et sur ce volet, la Nouvelle-Calédonie est aussi particulièrement stratégique. Elle est le 3e producteur mondial de nickel. Elle en détient 30% des réserves. Le nickel qui sert notamment à fabriquer de l'acier inoxydable et des batteries pour véhicules électriques.
Voilà, position géostratégique majeure, effectivement, de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup Léo. Léo Dumas, puis on parle bien sûr de tout ça avec nos experts jusqu'à 20h sur BFM Business. On apprend ce soir que le Premier ministre slovaque, Robert Fico, est entre la vie et la mort. Il a été blessé par balle à la sortie d'une réunion de cabinet. Son pronostic vital est actuellement engagé. L'assaillant présumé a été arrêté. Et cet attentat, bien sûr, unanimement condamné par l'ensemble des États européens. 18h04, dans l'actualité ce soir, je vous disais, il y avait sans doute un petit peu de frustration du côté du gouvernement. Vous vous souvenez qu'avant-hier à Choose France, Amazon avait annoncé un investissement d'un peu plus d'un milliard d'euros chez nous. Eh bien, seulement 48 heures à peine, l'Américain annonce près de 8 milliards d'euros d'investissement en Allemagne pour construire des data centers. Raphaël Couder.
Amazon accélère sur le cloud en Allemagne. Dès la fin de l'année prochaine, sa filiale AWS ouvrira plusieurs nouveaux centres de données dans la région de Brandebourg, près de Berlin. Une installation spécifiquement dédiée au lancement d'une nouvelle offre de cloud souverain, distincte de son offre de cloud public. En clair, un nouveau service ultra sécurisé qui garantit qu'Amazon lui-même ne pourra pas accéder aux données. Le but, séduire les clients du secteur public et les entreprises avec de hautes exigences en matière de stockage de données. Le numéro un mondial du cloud suit ainsi les pas de Microsoft et d'Oracle, déjà lancés sur ce segment depuis plusieurs mois, et il met les moyens. Au total, le groupe promet un investissement massif de 8,5 milliards de dollars, une enveloppe qui doit servir principalement à la construction à proprement parler de ces data centers, et Amazon espère d'importantes retombées économiques. Un peu plus de 17 milliards d'euros de contribution au PIB allemand. Le projet doit en parallèle permettre de pérenniser 2800 emplois sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
Raphaël Couder, et puis alors comme on dit, un pas en avant, deux pas en arrière, vous avez depuis ce matin une énième version de ma prime Rénov qui est entrée en vigueur. Il se trouve que les conditions d'attribution avaient été durcies en début d'année et ça s'est franchement fait sentir sur les volumes de travaux. Bref, on fait marche arrière. Marie Cœur de Roy.
Après avoir dissuadé les plus frileux, le gouvernement pourra-t-il relancer la rénovation ? Au premier trimestre, le nombre de logements rénovés grâce à MaPrimeRénov a presque été divisé par deux sur un an, selon l'ANA, l'organisme qui distribue cette aide. Les artisans de la Fédération française du bâtiment et de la CAPEB avaient alerté l'État dès les premières semaines du recentrage du dispositif. Ils ont donc fini par être entendus. L'isolation des logements sans autres travaux sera dès cette semaine de nouveau subventionné. Et pour certains, ça peut tout changer. La plateforme HelloWatt prend l'exemple d'un propriétaire d'une maison de 100 mètres carrés qui veut isoler ses murs par l'extérieur. Des travaux estimés à 17 500 euros, les seuls certificats d'économie d'énergie permettaient de réduire de seulement 1 000 euros la facture. Avec le retour de MaPrimeRénov, le coût des travaux sera quasiment divisé par deux. Pour autant, les observateurs du secteur ne croient pas forcément à une reprise massive de la rénovation. Les règles changent trop souvent au gré des erreurs, mais aussi des ajustements budgétaires.
Marie Cœur de Roy, quelques mots d'entreprise. On a encore une marque de vêtements qui va au tapis, malheureusement. C'est la chaîne Esprit qui va déposer le bilan en Europe. La procédure a été ouverte en Allemagne, puisque c'est là-bas que le groupe est basé à l'heure actuelle. En France, on a de nouveaux candidats pour récupérer, vous savez, l'une des 15 fréquences de la TNT qui vont être mises en jeu dans les prochains mois. L'appel à candidature est clos depuis ce midi. Les nouveaux candidats, ce sont Daniel Kretinsky, tout comme le groupe Ouest France ou encore le groupe L'Express. Et puis Lydia, l'appli de paiement entre particuliers, Lydia que vous connaissez sans doute. Lydia annonce qu'elle va lancer une banque en ligne avec un compte rémunéré. Son président, Cyril Chiche, sera d'ailleurs l'invité de BFM Business demain matin à 7h20 pour nous raconter tout ça. 18h07, on va sur les marchés en attendant de retrouver Étienne Brack depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, on a terminé encore en hausse. Bonsoir. Ce soir sur le CAC 40. Hein.
Avec un nouveau record, alors pas en séance mais en clôture, 8239 points pour la Bourse de Paris, record à Londres, record à Francfort, record également pour le Nasdaq aux États-Unis ou pour l'indice S&P 500, des marchés qui sont rassurés avec une inflation aux États-Unis qui est toujours présente, hein, 3,4% d'inflation le mois dernier, mais c'est mieux que les 3,5% d'inflation au mois de mars, donc ça rassure les investisseurs, l'obligataire qui se détend très nettement. À noter quand même le CAC 40 qui sous-performe par rapport aux autres indices à cause notamment de Burberry qui a perdu plus de 5% après Kering. C'est Burberry qui s'attend à un premier semestre compliqué et voit un redémarrage dans la deuxième partie de l'année. Ça pesait légèrement sur Kering, Hermès ou encore LVMH qui sont les plus fortes baisses du jour, mais ça n'empêche pas le CAC 40 de toucher un nouveau record ce soir au fixing avec une hausse de 0,17%, 8239 points à la clôture.
Merci beaucoup Étienne, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Évidemment, on est à la mi-séance sur le marché américain. L'indice Dow Jones qui grappille 0,5%, 39 776 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui gagne 1%, 16 676. Tout ça à la mi-séance. 18h08 sur BFM Business. C'est donc Maurice Lévy, le président de Vivatech, qui est l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant sur BFM. Bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, on va parler beaucoup de choses. D'abord, il est président de Vivatech. Bonsoir Maurice Lévy.
Bonsoir Edwige Chevriot.
Merci d'être avec nous. Et puis, vous êtes encore président du conseil de surveillance, encore pendant 14 jours, parce qu'ensuite, alors soi-disant, vous tirez votre révérence pour que Publicis retrouve le statut de PDG, avec Arthur Sadoun comme PDG, mais vous ne serez pas tellement loin, en tous les cas, si on en a compris, on a compris les termes du communiqué, puisqu'Arthur Sadoun a dit, nous allons continuer notre tandem ensemble. On va revenir sur l'actualité de Publicis. En plus, vous venez d'annoncer ce soir un rachat d'actions de 200 millions d'euros. Vous nous direz pourquoi. Une question d'abord, on va parler de Vivatech, qui ouvre 8e édition. Ça commence mardi prochain. Pour vous, on sait que c'est un très, très, très gros événement. C'est un événement incontournable dans la tech. Une question, on s'est croisé à Choose France, où était BFM Business. Il y avait le patron d'Amazon qui a fait une annonce, 1,2 milliard. Formidable, tout le monde a applaudi, c'est dans la logistique, un peu l'intelligence artificielle, puis là-dessus il met 8 milliards en Allemagne. Est-ce que, bon, c'est un peu une claque, non, quand même, à la France?
Non, il aurait pu mettre 10 milliards en Allemagne et rien en France. Il se trouve que sur la France, Amazon est déjà très bien implanté et a une logistique qui est très largement supérieure à celle de l'Allemagne, et que en Allemagne, ils ont du retard. Par ailleurs...
C'est dans le cloud. C'est pour construire un cloud européen. Vous voyez, oui. En plus, c'est sur le sujet que vous connaissez bien. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Parce que
Il y a
1-2 contre 7-8. Vous voyez le problème.
Oui, mais il y a d'autres exemples. Vous avez l'exemple de Microsoft qui met près de 5 milliards. Vous avez l'exemple de Meta aussi qui en met 4, donc je pense que
ça vous choque pas.
J'aurais préféré qu'il fasse l'inverse, je ne vous le cache pas, mais on peut pas tout gagner tout le temps, et je trouve que le parcours actuellement de la France est très largement supérieur à celui de l'Allemagne en ce qui concerne le choix des investisseurs internationaux. Ils préfèrent s'installer en France. Maintenant, il faut bien dire aussi que les coûts en France restent encore très élevés et qu'il y a encore à gagner sur la compétitivité de la France.
Ouais. Alors Vivatech, ça ouvre le 22 mai, ça vaut mardi prochain, 8e édition. C'est un rendez-vous que c'est vraiment vous qui le portez, Maurice Lévy. Très gros événement. La question qu'on peut se poser, c'est, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de stars. Il y a moins le petit piment que vous nous aviez fait là avec Elon Musk là en cerise sur le gâteau. Là, c'est qui la cerise sur le gâteau?
Ben, écoutez, il y a beaucoup de cerises sur le gâteau. Il y a des personnalités de tout premier plan. Il y a des produits absolument extraordinaires et très innovants. Alors, Elon Musk, en principe, je suis pas sûr qu'il sera là, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera représenté par son Cybertruck. Son truck Tesla assez exceptionnel qui sera donc présent. Il y a quelque chose d'étonnant, ce sont les deux sœurs Williams, Serena et Vénus, qui viennent à Vivatech, qui sont non seulement des championnes de tennis, qui sont hautement compétitives, mais qui sont aussi des investisseuses dans l'univers de la tech depuis longtemps. Et qui sont très avisés.
C'est pas Sam Altman quand même.
Ah non, ce n'est pas Sam Altman.
D'accord.
Mais le calendrier n'est pas bon cette année.
Ah, pourquoi?
Tout simplement parce que d'habitude, Vivatech se déroule aux alentours de mi-juin. Et que là, du fait des JO, on a été obligé de remonter en arrière, et qu'il y a énormément d'assemblées générales, de board meetings et d'autres réunions qui bousculent le calendrier. Par exemple, Mark Zuckerberg serait bienvenu, mais il va fêter son anniversaire à répétition pendant quelques jours, et donc il ne sera pas des nôtres.
Et vous l'avez fêté avec lui il y a encore quelques heures, donc d'autant plus merci d'être là, Maurice Lévy. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est en regardant tout le programme, c'est qu'on voit qu'il y a tous les responsables d'intelligence artificielle, c'est un peu le fil conducteur évidemment, des grandes entreprises qui sont là, beaucoup de femmes, hein, intéressant. Ça veut dire que les grandes entreprises, elles veulent démontrer ou montrer ce qu'elles font aujourd'hui et leur engagement vis-à-vis des start-up.
Tout ce qui compte dans le domaine de l'intelligence artificielle sera présent à Vivatech. Tout. Il n'y a pas une entreprise clé qui ne sera pas représentée à Vivatech, y compris OpenAI, mais y compris le professeur Yoshua Bengio, qui ne se déplace jamais et qui fera une téléconférence avec moi. Il y a énormément de... Yann LeCun, bien sûr, mais Eric Schmidt, qui était l'ancien patron de Google.
Grand investisseur. Vraiment,
grand investisseur.
Lui, il fait vraiment basculer.
Et il croit énormément à la France, ne l'oublions pas, et il faut le souligner. Et Eric sera présent. Le 21, nous avons une manifestation à l'Élysée, c'est le mardi. Le 22, c'est le mercredi, et c'est le lancement de Vivatech. Le président sera là, bien sûr, comme toujours, et il y a énormément d'innovations qui vont être présentées. On attend plus de 2500 start-up qui vont présenter des choses et qui vont pitcher, plus de 2500 investisseurs.
C'est ça qui est très intéressant.
Mais oui, c'est devenu la place où il faut être et la place où il faut rencontrer les start-up.
Ah justement, c'est la question 8e édition. On parlait beaucoup des start-up, c'était vraiment quelque chose de très novateur, Vivatech. Aujourd'hui, on voit bien quand même que la tech, elle est partout, elle a beaucoup progressé, on a des licornes. Avant-hier, on recevait Philippe Corot de Miracle, il y a évidemment Arthur Mensch de
Mistral.
J'allais dire OpenAI, vous avez de l'absus révélateur. ensuite, là, on a besoin presque de scale-up, on a besoin presque d'entreprises un peu plus, de développer des entreprises un peu plus grosses. Est-ce que c'est peut-être l'étape d'après pour Vivatech?
C'est déjà l'étape de Vivatech. Vivatech, depuis déjà quelques années, célèbre les scale-up et fait une compétition européenne de scale-up. Et donc... De sociétés qui sont susceptibles de devenir des licornes ou qui étant devenues des licornes sont susceptibles de gagner des galons et de devenir ce qu'on appelle des décacornes, c'est-à-dire peser au moins 10 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose que nous avons engagé il y a plusieurs années, à telle enseigne et à l'échelle européenne, à telle enseigne que nous allons avoir deux représentants très importants de l'Europe, d'une part Thierry Breton, mais également Charles Michel, le président du Conseil. C'est assez impressionnant qu'il ait décidé, avec son cabinet, de venir à Vivatech et de voir ce qui s'y passe, ce qui va s'y passer, et de toucher de très près les innovations qui sont présentées. Donc l'Europe, et en particulier la France, ce sont des places très vibrantes en matière d'innovation et en matière de start-up et de scale-up, à telle enseigne que maintenant le Japon a décidé d'accepter d'être le...
Oui, c'est le pays, pas d'honneur, mais enfin, c'est le pays mis en avant.
On le met, on dit en anglais, country of the year, bon, le
bon français, pays
hôte, voilà. Celui que nous invitons et à qui nous donnons une place.
Pourquoi vous avez choisi le Japon?
Le Japon, on l'a choisi à cause de toutes les innovations qui sont faites au Japon et qui sont mal connues. Et un personnage très important au Japon, qui n'est pas très connu en France, mais qui est une star au Japon, qui est Mikitani-san, et qui sera là, et qui est le patron de Rakuten. Rakuten est un groupe multiforme, protéiforme, avec énormément de possibilités d'expression. Et il sera présent avec pas mal d'innovations.
Juste un dernier point, 155 000 personnes en 2023. Là, vous visez quoi? 170 000? Vous aimez bien les records.
On ne s'était pas fixé un objectif en 2023.
Mais là, vous avez fixé un objectif.
Et là, nous sommes fixés l'objectif de dépasser, atteindre ou dépasser ce niveau qui est assez exceptionnel. Je rappelle que face à nos 155 000, le CIS, qui a 40 ans d'existence, lui, en fait 135 000.
Bon.
Donc, c'est pas mal.
Donc, c'est déjà pas mal.
C'est pas mal. La France a réussi dans ce domaine, non seulement à avoir de très belles start-up, mais à un endroit où elles peuvent s'exprimer et de manière très valorisante.
Maurice Lévy, beaucoup d'actualités à voir avec vous, parce qu'en même temps, vous êtes sur le dossier sur local ex-Passe Jaune que vous êtes en passe de reprendre avec votre holding personnel. Il y a évidemment UART, sur lequel vous insistez beaucoup, il y a l'escalator. Et puis, il y a cet AG de Publicis. Quand même, le 29 mai prochain, Ou alors, on dit tous, une page se tourne, puisque vous n'êtes plus président du conseil de surveillance. Maintenant, c'est Arthur Sadoun qui sera PDG. Mais vous restez là, donc c'est un faux départ à la Johnny Hallyday, c'est à la Charles Aznavour ou quoi ?
Non, c'est une vraie transformation des statuts de l'entreprise. C'est fait parce qu'il est très important de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir et de veiller à ce que l'équipe conduite par Arthur Sadoun et Arthur Sadoun lui-même soit en mesure d'assumer les responsabilités dans l'avenir. Oui. Et donc, le boulot d'un chef d'entreprise, c'est de prévoir l'avenir et de veiller à ce que les structures puissent être mises en place pour que ce qui a fait le succès de Publicis se poursuive. Oui. Et c'est donc ce que nous faisons.
Ah oui,
et là, cette transformation va permettre à Arthur Sadoun d'être PDG. Mmh. Moi, je ne serai plus rien, puisque je serai président d'honneur.
Moi, j'ai le communiqué devant moi d'Arthur Sadoun, qui dit que vous allez venir administrateur,
avec
une petite tambouille d'administrateur. Et puis, en fait, cette nouvelle structure permettra de maintenir le tandem que nous avons formé avec Maurice Lévy depuis 2017. Donc, le tandem, il reste. Donc, c'est un faux départ.
Mais ce n'est pas un faux départ, c'est un vrai départ structurel, et c'est un faux départ dans la mesure où je reste un peu comme une figure tutélaire et quelqu'un qui est un peu la représentation du groupe depuis maintenant une cinquantaine d'années, donc c'est pas rien.
Et en fait, c'est parce que vous représentez l'actionnaire, donc en l'occurrence Elisabeth Badinter, la famille.
Mais Elisabeth Badinter est vice-présidente conseil de surveillance aujourd'hui et sera vice-présidente du conseil d'administration demain.
Oui. Mais vous serez au conseil d'administration aussi.
Non,
vous serez.
Je serai
Organiser les administrateurs.
Je serai invité à participer aux réunions du Conseil sans voix délibérative.
Est-ce qu'il faut s'attendre à une évolution sur le capital, vous pensez ? Est-ce que la famille va rester là dans les prochains...
De tout ce que je sais, dans le futur prédictible, oui, la famille reste.
À la même hauteur ?
À la même hauteur.
Ouais. Tiens, puisqu'on parle de famille, vous avez vu un peu une restructuration du groupe Vivendi avec cotation de différentes filiales et notamment la cotation de Havas qui est un peu le rival de Publicis, bien sûr, un petit peu plus petit. Je vois déjà la moue que vous faites.
Havas, c'est une belle réussite. Il représente 20% de Publicis.
Oui.
Donc c'est pas mal.
Oui,
20%,
voilà,
c'est pas
ça,
mal.
C'est ce que je voulais dire, d'où la petite moue. Non. Vous êtes, ça va être coté Havas.
Oui.
Donc, ça peut changer un peu la donne. On peut imaginer qu'ils se rapprochent, qu'ils avalent, je sais pas d'autres. Il y a des géants de la publicité qui sont vous-même, vous aviez essayé avant son temps de grossir comme ça. Est-ce que ça vous inquiète ?
Pas du tout.
Non,
pas du tout. D'abord, la compétition est quelque chose sur lequel nous avons toujours vécu de manière très saine. Mmh. Et c'est bon qu'il y ait des concurrents solides. Et moi, plus Havas se renforce, plus je suis content, parce que ça veut dire que le marché français et le marché mondial est un marché
vibrant.
Vous
pensez qu'ils ont des ambitions, des grandes ambitions pour Havas ?
Je ne sais pas du tout ce que sont les ambitions d'Havas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne suis pas tellement dans la galaxie Havas, je suis dans la galaxie d'en face.
Mais moi, j'ai observé que vous savez en général beaucoup de choses, au point même qu'il y a certains qui disent tiens, pour avoir un rapprochement Publicis Havas. Pour créer un numéro 1 français de la COP.
Mais
ça
on
vous
est numéro 1,
oui,
je veux dire.
Oui.
C'est un peu comme ceux qui disent ce serait bien que Israël et la Chine fusionnent, ça fera le plus grand pays du monde.
Non, Veolia, Suez.
Le plus grand pays existe déjà et il n'y a pas besoin de cette fusion. Donc non, nous n'avons pas ce projet et nous ne voyons pas l'intérêt de ce projet.
Oui, d'accord. Et vous êtes prêt à vous défendre si jamais, de l'autre côté des Champs-Élysées, ils voient l'intérêt de ce projet ?
Écoutez, je n'ai pas l'impression que ce soit dans leur plan non plus.
Le marché de la pub, il se porte très bien. On a l'impression que c'est un peu flou, là.
C'est une bonne définition.
Quand on regarde un peu les différentes tendances, c'est un marché de la pub fragile, flou.
Oui, non, mais vous avez raison de dire flou. Je pense que c'est une bonne définition. Il y a pas mal d'incertitudes, d'abord sur le plan économique, puisque le marché mondial est soumis aux problèmes de taux d'intérêt, d'inflation. Il y a donc des risques qui existent. Il se trouve que dans ce marché qui est incertain, il y a quelques certitudes. Mmh. Et la plus belle des certitudes, ce sont les chiffres que publie ici, c'est justement Arthur Sadoun, a publié récemment.
Oui, oui, oui.
Et nous sommes très largement en tête dans tous les indicateurs, que ce soit ceux de croissance ou tout autre indicateur, et qui conduit à une capitalisation boursière tout à fait méritée, qui fait de nous la première capitalisation du secteur.
À part Vivatech, votre priorité maintenant, c'est un peu de développer votre holding personnel, Maurice Lévy-Icor, puisqu'on voit que sur ce local, vous avez fait une proposition, du moins votre proposition a été retenue. C'est quand est-ce qu'elle sera complètement aboutie
Alors il y a un processus et
oui,
je
découvre. Qui date depuis longtemps. Hein.
Je découvre ce secteur, hein, puisque à côté de l'entreprise que je connais, que je comprends, et je comprends très bien le fonctionnement de l'entreprise, je découvre ce qu'est. Les processus de restructuration où il y a pas mal de choses à faire.
Okay,
il y a une course d'obstacles.
Ouais.
Et pour l'instant, nous sommes choisis par le conseil d'administration. Nous sommes choisis par toutes les parties prenantes, y compris ceux qui détiennent la dette. Et il y a des projets qui sont soumis à l'Assemblée générale des actionnaires qui va se réunir au mois de juin. Ça a été publié récemment, et il y a pas mal d'autres éléments. Le comité d'entreprise, le comité central d'entreprise
donc tout
va
se
prononcer
bien, dans les prochains jours. Se déroule bien pour vous.
Pour l'instant, ça se passe très bien.
Vous en prendrez le contrôle quand ?
Pas avant la mi-août, compte tenu de tout le processus dont j'ai parlé tout à l'heure.
Et pour en faire quoi ?
Pour en faire un leader, européen dans... le domaine de la vie locale. Il se trouve que ce local porte très bien son nom. Et si vous observez la vie des gens, et les gens appartiennent d'une certaine façon à un village, à une ville, à un quartier, et ils vivent dans cet environnement. Il n'y a pas aujourd'hui de solution qui leur permette de se connecter de manière quotidienne à tout ce qui fait la vie locale.
Alors,
et c'est ce que nous voulons faire.
Toute dernière question. Vous avez été décoré en grande pompe à l'Élysée par Emmanuel Macron avec un parterre absolument inimitable. Et là, vous venez d'annoncer tout à l'heure des rachats d'actions. C'est tout ce que déteste Emmanuel Macron.
C'est ce
200
que,
millions
attendez,
de rachats d'actions.
Non.
Il veut même faire une taxe sur les rachats d'actions.
Oui, alors ces rachats d'actions sont faits pour être distribués.
Oui.
Ce sont des actions que nous rachetons pour les donner, selon les plans qui sont prévus, aux collaborateurs, à la condition qu'ils réussissent les performances. Donc ce ne sont pas des actions que nous détruisons, ce sont des actions que nous donnons aux collaborateurs. Et ça, je crois que Emmanuel Macron adore.
D'accord, voilà, ça sera le mot de la fin. Vivatech, semaine prochaine. Merci beaucoup
Merci à vous.
D'être venu ici. Maurice Lévy, donc le président de Vivatech et encore président du conseil de surveillance de Publicis. Tout de suite, on retrouve Guillaume Paul, Essentiel de l'info, toute l'écho.
BFM Business, l'info écho.
18h30 sur BFM Business, la situation bien sûr en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron a donc demandé au gouvernement de décréter l'état d'urgence sur place à l'issue d'un conseil de défense et de sécurité nationale qui s'est tenu à l'Élysée. Alors que le bilan des émeutes vient de passer à 4 morts, Gabriel Attal indique qu'il proposera dans les prochaines heures, je cite, une date aux indépendantistes et non-indépendantistes pour les recevoir à Paris, à Matignon. On apprend ce soir que le Premier ministre de Slovaquie, Robert Fico, est entre la vie et la mort. Il a été blessé par balle à la sortie d'une réunion de cabinet. Son pronostic vital est actuellement engagé. L'assaillant présumé a été arrêté. En France, on a encore une marque de vêtements qui va au tapis. Malheureusement, c'est la chaîne Esprit qui va déposer le bilan en Europe. La procédure a été ouverte en Allemagne puisque c'est là que le groupe est basé. Et puis Lydia, l'appli de paiement entre particuliers Lydia que vous connaissez sans doute. Lydia annonce qu'elle va lancer une banque en ligne à son tour avec un compte rémunéré. Son président Cyril Schiss sera d'ailleurs demain matin sur BFM Business à 7h20 pour en parler. 18h32, on revient dans un instant avec Audrey Tcherkov et tous nos experts pour commencer à décrypter l'actu, bien sûr. À tout de suite.
Good Evening Business. Actu, experts, débats, interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h36, c'est reparti. Good Evening Business jusqu'à 20h en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Audrey Tcherkov qui nous rejoint, bien sûr, comme tous les soirs, jusqu'à 20h. Et puis la fine équipe pour débriefer l'actu est avec nous, Mathieu Pechberti.
Bonsoir. Mathieu,
Emmanuel Lechy. Bonsoir Emmanuel. Et Edwige Chevrillon qui est revenu. Rebonsoir Edwige.
Rebonsoir.
Un mot, évidemment, l'interview de Maurice Lévy. Absolument. Oui. Incroyable, on a adoré le petit passage sur Havas, les éventuelles velléités d'Havas, oui. Quand il rejette
et dit très clair, hein.
Il représente aucune inquiétude, hein. Oui. Pas peur d'Havas.
100% de publiciste, c'était le premier tacle. Et ensuite, on ne voit pas tellement l'intérêt. D'abord, on est déjà numéro un, donc on ne voit pas tellement l'intérêt. Et puis, on ne serait pas du tout d'accord. Donc, ça veut dire que là, c'est vraiment fermer la porte. Après, la porte, elle peut s'ouvrir, hein. On se réouvrir. Mais pour l'instant, il ne voit pas du tout l'intérêt de ce rapprochement.
Oui, mais du point de vue capitalistique, ouais. Mathieu, Elisabeth Badinter a 6,5%, est-ce que ça suffit pour repousser d'éventuels assaillants, si assaillants il y avait finalement dans cette histoire?
Bon, alors sur la forme, il est évident qu'il fait passer le message que Publicis Havas ne boxe pas dans la même catégorie, donc il le fait de manière habile, mais on a quand même bien compris que lui était quand même très largement au-dessus d'Havas, qui effectivement est beaucoup plus petit que Publicis, alors qu'il y a une dizaine d'années, on n'était pas extrêmement loin. Havas était coté en bourse, Publicis traversait une période un peu plus compliquée, donc c'était deux acteurs, on va dire, de taille à peu près similaire. Et là, Publicis a vraiment pris le large, donc Havas va revenir en bourse. Mais non, enfin, ce rapprochement, en réalité, l'entourage de Vincent Bolloré l'a fait circuler pendant
rumeurs,
quelques années, mais un, personne n'y croit. Alors après, deux, il y a quand même un sujet de capital. Et vous remarquerez qu'il y a une autre petite phrase, en tout cas moi que j'ai bien accrochée, disant que la participation de la famille Badinter, évidemment d'Elisabeth Badinter, qui a environ 80 ans comme lui, restera au capital dans un avenir, il dit, prédictible. Moi, voilà, on sent que le terrain est un petit peu glissant. Quand même, la question qui se pose, c'est...
Mais c'est pas pour tout de suite.
Parce non, c'est
mais
ça.
Bien entendu.
Prédictible, c'est quoi? C'est pour le moment, il ne partira pas.
Ce que je veux dire, c'est que l'actionnaire, effectivement, a le même âge que lui et qu'on ne sait pas exactement ce que ses héritiers feront le jour où, malheureusement, voilà, la question se posera. Mais il y a toujours eu cette question du capital chez Publicis. Elle n'a que 6,5%. Mais bon, il n'y a pas de prédateur désigné chez Publicis. Il n'était pas inquiet, hein, vous avez bien vu. Hein, quand même.
Ah bah de toute façon, à la question, créer une union pour créer un géant mondial, il a été très clair, le géant mondial existe déjà et c'est Publicis.
Exactement. Oui, non, c'est clair, là-dessus, il est aussi,
et c'est aussi
le deuxième petit tacle.
C'est aussi pourquoi on en avait déjà parlé, c'est pour ça qu'il reste très très important dans l'organisation de Publicis. Parce que d'abord, c'est un peu la statue du commandeur, on l'a vérifié encore à Choose France où il était, c'est-à-dire vraiment tout le monde vient le voir, enfin, bon, c'est la statue du commandeur, et en plus, il fait quand même le lien, enfin, il aide, il accompagne Elisabeth Badinter depuis très très longtemps, c'est vraiment l'homme de confiance de la famille.
Oui, alors quand même Edwige, une vraie page se tourne, puisque enfin, il vous l'a dit, il a été clair sur le fait qu'il ne serait plus nulle part, en tout cas dans les organes de décision, il serait un invité du board, mais
oui,
sans
mais
aucun pouvoir décisionnaire.
Oui, mais il y a un comité qui va animer avec des administrateurs, et donc effectivement, il y a cette expression que qu'utilise Arthur Sadoun de tandem. Le tandem doit continuer entre moi et Maurice Lévy. C'est ce qui a fait la force de Publicis.
C'est un vrai départ structurel. J'aime beaucoup l'expression.
Oui, il dit qu'il est la figure tutélaire. Bon, on comprend qu'il part, mais qu'il s'en va pas. Vous voyez.
Ouais, enfin quand même avec des statuts qui se modifient avec une nouvelle page Arthur Sadoun quand même, il faut le dire.
D'un mot Vivatech donc qui sera alors, aux avant-postes de Vivatech à partir de mercredi prochain. Alors c'est vrai que le casting est moins bon cette année
C'est un casting moins spectaculaire. Il faut dire qu'en 2023 le casting était top.
Oui.
Le timing était meilleur.
Mais voilà, c'est ce qu'il a dit. Moi, enfin, je n'avais pas forcément. D'abord, il y a l'anniversaire donc à rebond de Mark Zuckerberg, donc il peut pas venir en France. Et puis en plus surtout, c'est que ça a été avancé. Ouais. À cause des Jeux Olympiques, et que c'est pas une bonne période parce que tout le monde est à clôture des comptes, et donc c'est beaucoup plus compliqué pour les uns et les autres. Juste, tiens, on m'a donné une petite info, c'est pas du tout Maurice Lévy, on m'a donné cette info hier à propos du succès de Choose France. Il y avait beaucoup d'Américains. En fait, ils sont venus, me dit-on, en famille pour aller au concert de Taylor Swift. parce qu'il était différent.
Ça faisait un beau package.
Ça faisait un beau package. Et en plus, elle a promu ses nouvelles chansons, son nouveau disque, chose qu'elle ne faisait pas dans ses shows américains.
C'est un bon timing pour Shoes France.
Est-ce que Shoes France n'a pas été programmé exprès pour coller avec les dates de Taylor Swift?
Mais il se trouve que le hasard fait parfois bien les choses ou pas bien les choses.
C'est pas mal pour le coup. Voilà, donc pour Maurice Lévy qui était donc votre invité il y a quelques instants.
Oui, on va maintenant parler de la Nouvelle-Calédonie, hein, puisque Emmanuel Macron a demandé au gouvernement de décréter l'état d'urgence sur place, alors que le bilan des émeutes vient de passer à 4 morts. L'île est à feu et à sang. On ne compte plus le nombre de bâtiments et de magasins, d'entreprises qui ont été brûlés ou encore saccagés.
Ouais, écoutez par exemple ce témoignage que nous avons recueilli, celui de ce gérant de plusieurs concessions auto. Il est basé à Nouméa. 3 de ces concessions ont pris feu. La facture va être très très lourde. Il s'appelle Laurent Joudan. Écoutez ce qu'il nous disait aujourd'hui sur BFM Business.
Certaines concessions brûlent en ce moment. Qu'est-ce qu'il en restera demain matin ou tout à l'heure? La moitié, rien. D'autres concessions, notamment une ou deux, sont encore totalement intactes. Est-ce que ça va être le cas à la fin de la nuit? Aucune idée. Donc, chiffrer, c'est très difficile. Ce sont évidemment des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros. L'économie va mettre un bon moment à se remettre. Des hypermarchés ont brûlé, il va falloir les réapprovisionner, sauf que la chaîne est un petit peu cassée, la chaîne de réapprovisionnement. Même si on réouvre demain, enfin, d'abord, j'aurai pas de clients, évidemment, puisque les gens auront d'autres soucis, mais au-delà de ça, toute l'économie va mettre un petit moment à redémarrer dans beaucoup de secteurs.
Alors, sachant que l'économie locale, elle ne se porte pas très bien, puisque si la Nouvelle-Calédonie est le 3e producteur de nickel au monde, il y a quand même un vrai sujet avec un prix qui a dévissé de plus de 45%. Une concurrence avec l'Indonésie notamment qui les met en grande difficulté, et les entreprises qui exploitent justement les minerais locaux sont pour la première fois en déficit général. Donc c'est compliqué pour la Nouvelle-Calédonie, Emmanuel.
C'est vraiment l'illustration de ce qu'on appelle la malédiction des matières premières. C'est un pays qui est doté, une zone qui est dotée d'une très grosse ressource naturelle, qui ne vit quand même que essentiellement de cette ressource naturelle.
Hein. 90% des exportations.
C'est 90% des exportations.
25% des emplois.
C'est un emploi sur 4 qui indirectement ou directement dépend du nickel. Et donc, alors c'est vraiment une économie paradoxale, parce que si vous regardez le niveau de vie moyen, par exemple, en Nouvelle-Calédonie,
c'est
un niveau qui est quasiment identique à celui de la métropole, ce qui est quand même une exception parmi les
territoires
ultramarins. Alors,
il y a des grandes inégalités, c'est ça.
La réalité, c'est qu'on a derrière un chiffre moyen qui effectivement dit cette réalité que c'est le niveau de vie de Singapour, c'est même plus que le niveau de vie de la Nouvelle-Zélande. Il y a effectivement d'énormes disparités avec des provinces dans lesquelles vous avez un taux de pauvreté qui est supérieur à 50% et qui se retrouve essentiellement sur les populations indigènes.
Vous avez donc, globalement un Calédonien sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté.
Voilà. En fait, ça a très bien marché jusque dans les années 2010, et puis après il y a eu un essoufflement lié au fait que on a moins investi dans les mines. Il y a eu des grands travaux d'infrastructures qui sont arrivés à terme. Il y a eu donc sur cette économie en ralentissement sont arrivés quand même plusieurs coups sévères. Il y a eu le Covid, il y a eu le référendum de 2021, il y a eu et il y a eu les difficultés. Vous savez, il y avait un rachat d'une des grandes entreprises de nickel qui a posé beaucoup de problèmes sociaux, etc. Et là, effectivement, l'effondrement du nickel met une économie en péril. En fait, la réalité, c'est qu'il y a effectivement cette étincelle qui vient de ce référendum constitutionnel pour élargir la base électorale. Mais c'est vrai que la situation économique et sociale est était déjà
dramatique.
Explosive. Ouais, juste un point, c'est quelqu'un qui me disait, en fait, ce qui est assez dangereux, parce qu'on voit bien, je crois que Nouméa a complètement brûlé, enfin, c'est les églises, les hôpitaux, les garages, enfin, c'est dans un état très inquiétant. Et ce qui peut être dangereux, c'est qu'en fait, les émeutiers pensent qu'il y a un pactole autour du nickel. Donc ils sont à la recherche du pactole pour s'approprier le pactole. Or, en fait, comme vient de le dire Emmanuel, il n'y a plus tellement de pactole aujourd'hui. Et c'est là où la sortie risque d'être très difficile à trouver.
Oui, alors après, on se rend bien compte que c'est quand même très compliqué, que c'est une filière qui est en difficulté, puisque l'usine de Glencore a été mise en sommeil. Et c'est quoi ? Et c'est quasiment 2000 emplois qui a priori, vont être supprimés. Donc, c'est compliqué. Après, c'est sûr que à partir du moment où la demande explose, puisqu'on a besoin de nickel pour les batteries automobiles, on s'imagine finalement. Voilà,
oui, mais alors, c'est 30% des réserves là-bas estimées de nickel, mais seulement. Un des premiers acteurs de un des premiers producteurs mondiaux, mais très loin derrière l'Indonésie quand même, malgré tout.
C'est pour ça que Eramet s'est complètement repositionné.
C'est pour ça que Eramet s'est repositionné.
C'est un peu toute la difficulté.
Même les groupes étrangers qui étaient investis en Nouvelle-Calédonie, il y avait le Brésilien Vale, je crois, qui avait perdu quand même pas mal d'argent. Eramet, évidemment, la filiale d'Eramet a été à maintes reprises renflouée par le gouvernement depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, voilà, c'est une région qui vit exclusivement de ça, soutenue en grande partie par le gouvernement français pour renflouer cette société.
Mais alors justement, le fameux pacte nickel, Mathieu, qui est censé redresser la filière.
J'ai souvenir de Manuel Valls quand il était Premier ministre, donc il y a quasiment 10 ans maintenant, qui déjà avait fait une intervention pour sauver cette filiale de nickel qui avait besoin d'être renflouée, où il y avait déjà des difficultés.
Il y avait des sujets avec
une des familles actionnaires, donc c'est un peu un système sans fin. Après, politiquement, il y a quand même la Nouvelle-Calédonie a eu ce référendum il y a 2 ans ou 3 ans maintenant.
2021,
voilà, 3 ans.
Contesté parce que grand taux d'abstentéisme pendant le
quand même donné un résultat qui.
Mais c'est ça la démocratie.
Qui donne même un avenir et qui ne remet pas en cause le statut.
Non, mais avec même un appel au boycott.
Pour les 10 ou 20 ans à venir.
Des indépendantistes.
Et là, il y a donc ce plan qu'a présenté l'État en mars dernier, plan de soutien à la filière nickel, qui divise les populations locales entre indépendantistes et non-indépendantistes. Parce que vous avez derrière une contribution des collectivités locales, donc on n'avance pas. Cette filière est en train de mourir tout purement et simplement.
Oui, avec l'Élysée, évidemment, qui suit cela de très près, puisque ça nous permet d'avoir une position extrêmement stratégique dans la région indo-pacifique.
Donc on injectera de l'argent.
Le gouvernement finira par réinjecter de l'argent, bien sûr.
Bien, voilà pour ce dossier de la Nouvelle-Calédonie. Donc, on reviendra bien sûr dans le journal de 19h. On parlera de la place centrale de la Nouvelle-Calédonie dans cette zone indo-pacifique. C'est Léo Dumas qui nous expliquera tout ça, bien sûr, tout à l'heure. Séquence énergie en vue pour Emmanuel Macron. Alors, il devait initialement se rendre à Fécamp aujourd'hui, en Normandie, pour inaugurer le 3e parc français d'éoliennes en mer. Déplacement annulé justement à cause des événements en Nouvelle-Calédonie. En revanche, c'est confirmé, Emmanuel Macron sera demain à Flamanville.
Exactement, sur le chantier de l'EPR qui devrait enfin commencer à produire de l'électricité. A priori, c'est prévu pour la fin de l'été. En tout cas, demain, il sera là au moment où on va finir de charger l'uranium dans les cuves. Écoutez ce que disait Agnès Pannier-Runacher ce matin, parce que pour elle, c'est la preuve que la France avance sur la relance du nucléaire.
Le nucléaire, le retour du nucléaire, c'est à la fois notre capacité à démarrer un nouveau réacteur nucléaire, mais c'est également la mise en chantier de 6 nouveaux réacteurs, et c'est le fait que nous sommes à nouveau le premier exportateur d'électricité nucléaire. C'est bon pour notre compétitivité, c'est bon pour le climat puisque c'est une énergie décarbonée, et c'est le travail acharné des équipes de l'État et surtout d'EDF, et je veux remercier ici les agents d'EDF qui montrent que la France est une grande nation nucléaire.
Alors, rien ne s'est passé comme prévu, 13 ans de retard et quelques milliards de plus sur la facture initiale. Mais Mathieu, enfin ça y est, on peut enfin clore le dossier Flamanville.
Oui. Je rappelle qu'on est à 19 milliards d'euros pour ce chantier qui avait démarré en 2008, qui devait
être inauguré par Nicolas Sarkozy.
Oui, à l'origine, tout le monde savait que ça ne coûterait pas 3 milliards ni 5. Mais on pensait plutôt que ça
coûterait 10. La norme, c'est plutôt x2 en général.
Donc maintenant, là, on a. Quand vous regardez Flamanville, on a 19 et les deux autres EPR de Dinkley Point construits par EDF en Chine, ils sont un peu moins chers quand même. On est déjà autour de 20 milliards, donc à la louche, puisqu'on n'est plus à quelques milliards d'euros près, on est quand même à 20 milliards l'unité. C'est quand même pas rien. Donc, non, mais c'est très bien qu'il démarre. On ne doutait pas qu'il ait démarré un jour, si vous voulez.
Oui, enfin, on peut se réjouir que ça arrive enfin.
Et s'il n'avait pas du tout démarré, là ça aurait été pire que tout. La question, voilà, non, Flamanville c'est un prototype, donc voilà, okay, très bien, prenons acte. Le problème c'est qu'il y a deux autres prototypes qui arrivent en Angleterre, donc faudrait qu'à un moment donné ça devienne des éléments de série.
Oui, oui, prototype plus prototype.
Juste voilà. En soi c'est quand même important que ça fonctionne, parce que
oui,
c'est une manière
oui,
de montrer
symboliquement,
que,
oui.
Symboliquement que EDF a retrouvé ses compétences et tout. Non, ce qui est juste intéressant c'est de voir que l'ouverture de Flamanville arrive pile au moment où les prix d'électricité baissent.
Oui,
donc
oui,
c'est formidable clair. Pour la France. Un atout pour son industrie, sa réindustrialisation, mais c'est un petit dilemme pour EDF.
Ce sera peut-être pas. Oui. Non, mais ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que le sera sûrement pas rentable pour le moment l'électricité.
Exactement.
À Flamanville qui serait produite. EDF donne pas de chiffres exacts puisque ça dépend sur combien de décennies on amortit l'usine entre guillemets, mais on est quand même sur 110-120 euros de mégawattheure, alors que comme le dit Edwige, les prix là on est autour de 70.
Emmanuel, le chiffre. Emmanuel.
On peut pas dire, comme le dit Agnès Pannier-Runacher, que c'est le symbole de la relance du nucléaire en France, puisque
vaut mieux pas.
C'est plutôt la fin.
On n'a pas ouvert de réacteur nucléaire depuis combien de temps en France?
Si ça veut dire ça. Mais si, il s'ouvre.
Oui, enfin, oui, d'accord, mais sauf que là, on est sur l'aboutissement d'une décennie de retard, etc. Donc le vrai test, ce sera effectivement, est-ce qu'on est capable d'aller vers l'étape suivante, qui est.
Alors
maintenant, il n'y a quand même plus beaucoup de débats sur la nécessité de relancer du nucléaire qui permette d'assurer la transition avec les renouvelables sur 20, 30, 40 ans. Ça c'est certain. Après, est-ce qu'on va aller vraiment sur ces nouveaux EPR2 qui sont des EPR qui portent mal, enfin faut pas croire que c'est ça, en fait ils n'ont plus grand chose à voir avec cet EPR qui entre en service à Flamanville. Il faut pas, c'est vrai que c'est une contribution importante. Il faut bien voir que si on avait eu l'EPR en 2022 au moment de la crise, on n'aurait pas eu une électricité aussi chère.
Évidemment.
C'est-à-dire qu'en gros, si on avait eu ce réacteur qui avait produit, on aurait eu moins de déséquilibre entre l'offre et la demande, et on n'aurait pas été chercher les centrales les plus chères et les plus,
la dernière centrale
les plus polluantes
charbon.
Pour fixer le prix.
Alors.
Et donc oui, et puis pour notre commerce extérieur, pour vendre, etc., c'est beaucoup mieux.
Oui,
mais c'est quand même un atout considérable. Enfin, je veux dire, il y a un moment où si on fait la liste technologiquement de tous les atouts de l'économie française par rapport à ses concurrentes, et vous mettez pas beaucoup plus de choses dans la liste que le nucléaire. Et c'est pour ça qu'il y a sans doute beaucoup de choses à faire en France. Moi, j'avoue que sur tout ce qui est intelligence artificielle, on voit bien qu'on est. Par contre, sur toutes les technologies de la transition écologique, on est quand même très bon. On est quand même. Les Français sont ceux qui ont déposé le plus de brevets à haute valeur ajoutée sur les technologies de transition écologique. Donc, allons-y à fond. Et surtout, on a quand même, pour le coup, il n'y a pas que la responsabilité d'EDF, c'est-à-dire les errements de 30 ans du nucléaire, c'est quand même terrifiant. C'est-à-dire
non, c'est sûr, mais enfin, en tout cas, on peut se réjouir que ça arrive, même si ça arrive avec 13 ans de retard, parce que on en parlait d'ailleurs quand le classement en termes d'attractivité des pays européens est sorti il y a quelques jours. La France est sur la première marche du podium, notamment grâce au fait que son mix énergétique est un des mix énergétiques les plus décarbonés.
Donc
ça confirme en Europe cette trajectoire-là. Et par ailleurs, Emmanuel.
Même ailleurs. S'il y a bien un pays s'il y a bien une zone où on décarbone un peu plus sur la production d'énergie, si vous regardez les États-Unis en sont encore à une consommation d'énergie fossile.
Oui, après
les entreprises qui vont aux États-Unis aujourd'hui, c'est pas parce que les États-Unis produisent de l'électricité décarbonée,
parce que
ce n'est pas le cas, mais parce que c'est moins cher.
C'était là-dessus que je rebondissais.
Justement, Mathieu, quand EDF nous répète, nous jure, c'est grandiose qu'ils ne reproduiront pas les erreurs du passé, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des nouveaux prototypes d'EPR finalement, qui ressembleront aux 6 qui doivent être construits dans les prochaines années? Qu'est-ce que ça nous dit à ce stade?
La direction d'EDF qui travaille d'arrache-pied depuis un an et demi, deux ans maintenant là-dessus, et pour le moment très prudente, parce que bon, là c'est formidable, Flamanville va être lancé enfin, mais comme je le disais tout à l'heure, EDF construit deux autres réacteurs EPR, donc même modèle amélioré évidemment, en Grande-Bretagne, et qui connaissent aussi des dérapages financiers et aussi beaucoup de retard. Donc on est encore une fois sur des unités à en gros 20 milliards d'euros. Et donc les fameux EPR2 qui seront construits en France seront encore une nouvelle version améliorée. EDF sait bien qu'il ne faut pas se rater sur ce coup-là, et il ne faut pas annoncer que ça vaut 10 milliards pour que ça en vale 15 à la fin, et donc pour le moment c'est un peu silence radio, mais on est déjà sur une facture qui avait été évaluée alors avant le Covid, donc il y a eu le Covid, il y a eu l'inflation, qui était en gros
était
de 50 milliards d'euros pour les 6 et là on est en train de se rapprocher plutôt de 70 milliards d'euros pour les 6, donc vous voyez c'est quand même énorme,
oui.
C'est quand même
Alors justement, attendez.
C'est quand même des investissements colossaux.
On parle justement de dépassement de factures et d'investissements colossaux, mais il faut quand même rappeler que l'EPR de Flamanville n'a aucun équivalent en termes de puissance au monde. Il dépasse largement les réacteurs chinois, coréens et russes. Non, mais c'est important de l'expliquer.
Oui, non, mais l'idée. Alors, il y a deux EPR en Chine qui tournent. Alors, un ou deux se sont arrêtés un petit peu, mais enfin, globalement, là, ils ont bien tourné.
Oui, mais ils sont beaucoup moins puissants.
En 2023. Il est évident que le problème, c'est que les EPR ont été inventés il y a une trentaine d'années, où l'idée, c'était de dire big is beautiful, pardon. Et donc, ils font faire de plus en plus gros pour rentabiliser. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'en faisant très gros, ça coûtait très cher et qu'on ne savait pas faire, vous voyez.
Oui.
Non, mais je pour conclure.
Un petit mot, c'est pour la France, c'est le pays des ingénieurs. Et donc, on a tendance, notamment par rapport aux Chinois, à complexifier énormément la construction. Ouais. Alors, le grand danger, c'est il faut pas lâcher sur la sécurité. Ouais. Mais je crois que l'idée, c'est quand même faire des processus qui soient beaucoup plus simples et beaucoup moins un empilement.
Oui, mais ça touche aussi à la réglementation. Oui. Voilà.
Et les réacteurs qui marchent le mieux. Ouais, les réacteurs qui marchent le mieux dans le monde sont les réacteurs chinois et russes.
Et voilà.
Et qui sont plus petits que les EPR, c'est pour ça.
Et quand Edwige disait, nous sommes une nation d'ingénieurs, nous sommes aussi une nation de syndicats. Et s'il y a bien un endroit où se symbolise cette union magistrale entre les grands corps d'ingénieurs et les syndicats,
c'est quand même le charme français, ça va être
intéressant de voir ce qui se passe au Royaume-Uni, puisque je vous rappelle que le seul grand pays qui respecte aujourd'hui sa trajectoire de décarbonation et la trajectoire 2050, c'est
le Royaume-Uni. Et notamment grâce à l'éolien en mer.
Voilà. Absolument.
Ouais. Bah voilà. Et notamment la contraction, la décroissance.
Emmanuel Macron devait être affectant.
Enfin, ils sont aussi quand même revenus sur beaucoup de leurs engagements en termes de transition climatique.
Ouais, mais c'est les seuls qui tiennent aujourd'hui leurs promesses.
Une autre fois. Allez, c'est terminé. Merci beaucoup, jeunes gens, d'être passés ce soir dans cette première partie du débrief.
Jeune fille.
J'ai dit jeune genre. Ah, j'ai dit jeune genre.
Oui,
pardon.
Oui. Autant jeune femme et jeune. Voilà.
Mathieu Pêche-Berti.
Jean, c'est pas genre.
Je prends.
Jeune genre, c'est pas genré, non,
jeune genre, vous mettez pas les jeunes filles dans les jeunes genres.
Bon, Edwige, Mathieu, Emmanuel.
On vérifiera dans la rousse.
On vérifiera dans la rousse.
Mathieu Pêche-Berti, Manel de Chypre, Edwige, à demain, 18h10.
Non, pas demain. Si demain.
On est jeudi demain.
Oui, alors,
les semaines font à nouveau 5 jours.
Voilà. Oui, c'est pas de chance alors. Christian Noyer, donc l'ancien gouverneur de France, c'est lui qui a présidé et qui a remis le rapport sur l'union des marchés des capitaux.
Oui.
On parlera avec lui de l'union des marchés des capitaux parce que visiblement à tous France, on nous a expliqué que c'était le truc le plus important.
L'alpha
pour
et l'oméga.
L'Europe enfin arrive à mettre le turbo. Et puis tiens, je lui poserai la question, est-ce que, je sais pas, si c'est général, peut être acheté ou pas. Est-ce qu'il va contredire le président Macron.
On verra.
Christian Noyer qui a quand même sauvé aussi la Société Générale.
Oui, c'est pour ça qu'il connaît bien le dossier.
Au moment de l'affaire Kerviel.
Un peu voilà, d'histoire. Ça sera demain soir.
Allez, ça sera demain soir, 18h58. Bah, nous reviendrons dans un instant.
Et oui, on est ensemble en direct jusqu'à 20h.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Audrey Tcherkov, Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h20, on est en retard, mais on est là, malgré tout, pour la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
C'est bien sûr la Nouvelle-Calédonie qui va nous occuper une partie de la soirée, évidemment. L'état d'urgence a été décrété tout à l'heure, mais les émeutes ont déjà fait 4 morts et énormément de dégâts. On va en parler dans un instant. Et puis on en parlera avec nos experts qui reviennent bien sûr à 19h15.
Audrey. Et oui, avec cette question à poser à nos experts, la France est-elle finalement si attractive que ça, puisqu'il y a 48 heures à Choose France, on disait que oui, sauf qu'Amazon vient d'annoncer aujourd'hui un investissement en Allemagne 7 fois supérieur à celui annoncé lundi chez nous. On va vous raconter ça dans un instant. Et puis, on parlera aussi de MaPrimeRénov, alors énième version qui entre en vigueur aujourd'hui, et déplacement enfin très attendu d'Emmanuel Macron à Flamanville demain.
Les experts dans un quart d'heure. Qui sera là ce soir? Jean-Marc Sylvestre pour Atlantico, Nathalie Janson pour Neoma Business School et Benjamin Coria pour les économistes atterrés. Tout cela pour nous accompagner bien sûr jusqu'à 20h et avec plaisir.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc la Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron, je vous le disais, a donc demandé au gouvernement de décréter l'état d'urgence sur place alors que le bilan des émeutes est passé à 4 morts. L'île est à feu et à sang. On ne compte plus le nombre de boutiques, de magasins, d'usines, d'entreprises qui ont été saccagées ou brûlées. Écoutez par exemple ce témoignage que nous avons recueilli, celui de ce gérant de plusieurs concessions auto. Il est basé à Nouméa. 3 de ces concessions ont pris feu. Il le dit, la facture va être très lourde.
Certaines concessions brûlent en ce moment. Qu'est-ce qu'il en restera demain matin ou tout à l'heure? La moitié, rien. D'autres concessions, notamment une ou deux, sont encore totalement intactes. Est-ce que ça va être le cas à la fin de la nuit? Aucune idée. Donc, chiffrer, c'est très difficile. Ce sont évidemment des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros. L'économie va mettre un bon moment à se remettre. Des hypermarchés ont brûlé. Il va falloir les réapprovisionner, sauf que la chaîne est un petit peu cassée, la chaîne de réapprovisionnement. Même si on réouvre demain, enfin, d'abord, j'aurai pas de clients, évidemment, puisque les gens auront d'autres soucis. Mais au-delà de ça, toute l'économie va mettre un petit moment à redémarrer dans beaucoup de secteurs.
Voilà, Laurent Joudan, dont trois concessions auto ont brûlé. On apprend d'ailleurs à l'instant qu'Emmanuel Macron présidera demain matin, jeudi, une réunion de suivi sur ce dossier. Emmanuel Macron qui reporte donc un déplacement, on en parlait il y a quelques instants, qui était prévu du côté de Flamanville sur le site de l'EPR. Bonsoir Léo Dumas.
Bonsoir.
Évidemment, le gouvernement tente de ramener le calme sur place. Parce que des personnes meurent, parce que la situation est extrêmement tendue. Mais aussi, il faut le dire, parce que la Nouvelle-Calédonie est une position française absolument prépondérante dans cette région indo-pacifique, Léo.
Oui, car la zone, en fait, c'est la plus dynamique au monde, de l'Inde à la Nouvelle-Zélande, en passant évidemment par la Chine, l'Australie, l'Indonésie. Cette région va peser pour 50% du PIB mondial en 2040, selon le FMI. Et pour la France, c'est donc un atout d'être présente dans l'Indo-Pacifique. Sa puissance passe notamment par l'énorme domaine maritime. Sur les presque 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime français, eh bien, plus de 10% sont autour de la Nouvelle Calédonie, et ça fait notamment de l'archipel un point d'appui pour l'armée française. Les effectifs et les capacités navales sont d'ailleurs en train d'être renforcés, 400 militaires de plus d'ici à 2030, de quoi raffermir la souveraineté, mais aussi coopérer avec les alliés régionaux, quand dans le même temps, eh bien, vous avez la Chine qui exerce une pression croissante dans le Pacifique, pression d'abord militaire avec des exercices fréquents, mais aussi des luttes d'influence dans plusieurs petits États pour récupérer notamment des ressources naturelles. Et sur ce volet, la Nouvelle-Calédonie est aussi particulièrement stratégique. Elle est le troisième producteur mondial de nickel. Elle en détient 30% des réserves. Le nickel qui sert notamment à fabriquer de l'acier inoxydable ou encore des batteries pour voitures électriques.
Merci beaucoup Léo. Puis on revient bien sûr avec nos experts dans moins de 10 minutes sur ce sujet de la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, on apprend ce soir que le Premier ministre slovaque Robert Fico est entre la vie et la mort. Il a été blessé par balle aujourd'hui à la sortie d'une réunion de cabinet. Son pronostic vital est actuellement engagé. L'assaillant présumé a été arrêté. L'attentat unanimement condamné, bien sûr, par les États européens aujourd'hui. 19h06, dans l'actualité, je vous disais, il y a un petit peu de frustration, sans doute, du côté du gouvernement. Vous vous souvenez qu'avant-hier à Tchouss, France, Amazon avait annoncé un investissement d'un peu plus d'1 milliard d'euros chez nous. Et bien, seulement 48 heures à peine, l'Américain annonce plus de 8 milliards d'investissements en Allemagne pour construire cette fois des data centers. Raphaël Couder.
Amazon accélère sur le cloud en Allemagne. Dès la fin de l'année prochaine, sa filiale AWS ouvrira plusieurs nouveaux centres de données dans la région de Brandebourg, près de Berlin. Une installation spécifiquement dédiée au lancement d'une nouvelle offre de cloud souverain, distincte de son offre de cloud public. En clair, un nouveau service ultra sécurisé qui garantit qu'Amazon lui-même ne pourra pas accéder aux données. Le but, séduire les clients du secteur public et les entreprises avec de hautes exigences en matière de stockage de données. Le numéro un mondial du cloud suit ainsi les pas de Microsoft et d'Oracle, déjà lancés sur ce segment depuis plusieurs mois, et il met les moyens. Au total, le groupe promet un investissement massif de 8,5 milliards de dollars, une enveloppe qui doit servir principalement à la construction à proprement parler de ces data centers, et Amazon espère d'importantes retombées économiques. Un peu plus de 17 milliards d'euros de contribution au PIB allemand. Le projet doit en parallèle permettre de pérenniser 2800 emplois sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.
Raphaël Couder, on a encore une marque de vêtements qui va au tapis malheureusement, c'est la chaîne Esprit qui va déposer le bilan en Europe. La procédure a été ouverte en Allemagne puisque c'est là que le groupe est basé aujourd'hui. Et puis alors, dans la même veine, ça va pas fort non plus chez Burberry. Le groupe a annoncé ce matin que sur un an, son bénéfice net avait reculé de 45%. Clairement, les ventes ralentissent dans chacune des grandes zones économiques. Pauline Tadevin.
Les commentaires de certains analystes sont sans appel. Burberry est à genoux pour l'un d'eux qui estime que c'est l'une des plus grandes victimes du ralentissement du secteur du luxe et qu'il y a peu de signes indiquant qu'elle est en train de s'en sortir. Les ventes en Chine se sont effondrées de 19% au quatrième trimestre. Elles baissent de 12% aux États-Unis en un an. Cela ralentit aussi en Europe. Comme Kering, Burberry tente de se transformer et de monter en gamme. Il a notamment inauguré une boutique avenue Montaigne le mois dernier. La mise en œuvre de notre plan alors que la demande ralentit a été particulièrement compliquée, explique le patron de la marque britannique qui salue de bons progrès, notamment pour recentrer l'image de marque. Il espère que cela commencera à porter ses fruits au second semestre. La direction est bonne, mais on ne voit pas encore le sommet de la montagne, indique une note de Bernstein qui rappelle aussi qu'étant donné la chute du cours de bourse de l'entreprise, moins 55% au cours des 12 derniers mois, plusieurs observateurs voient désormais Burberry comme une cible potentielle de rachat.
Pauline Tadevin, en France, on a nouveaux candidats pour récupérer, vous savez, l'une des 15 fréquences de la TNT qui vont être remises en jeu dans les prochains mois. L'appel à candidature est clos depuis ce midi. Alors, parmi les derniers candidats arrivés, on a notamment Daniel Kretinsky, c'est confirmé. Est également candidat le groupe Ouest France ou encore le groupe L'Express. Lydia, l'appli de paiement entre particuliers, Lydia que vous connaissez sans doute, Lydia annonce qu'elle va lancer une banque en ligne avec un compte rémunéré. Son président Cyril Chiche sera d'ailleurs l'invité de BFM Business demain matin à 7h20 pour nous raconter tout ça. Et puis, ça n'était pas arrivé depuis 20 ans. Singapour a depuis quelques heures un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Lawrence Wong. Son arrivée met fin à plus de 60 ans de règne de la dynastie Lee. Le successeur semble en tout cas vouloir jouer la carte, comme on dit, de la continuité. Marion Ziegfeld est la correspondante de BFM Business en Asie.
Ce soir, Lawrence Wong, à 51 ans, a fait son entrée dans le cercle très fermé des premiers ministres singapouriens, quatre seulement en près de 60 ans. Certes, il hérite du quatrième pays le plus riche au monde, de la première place financière d'Asie devant Hong Kong, mais le meilleur élève de la classe ASEAN est chahuté. Chahuté sur le plan géopolitique avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, deux partenaires clés pour le petit confetti de 5,9 millions d'habitants. Chahuté aussi sur le plan économique avec la question du coût de la vie. Singapour est souvent épinglé comme la ville la plus chère au monde. C'est un défi à la fois pour la population singapourienne, mais aussi pour l'attractivité de la cité-État. L'année dernière, un rapport de la Chambre de commerce européenne indiquait que 7 entreprises interrogées sur 10 envisageaient de délocaliser leurs équipes. Lawrence Wong devra également gérer la question de l'immigration, du vieillissement de la population et des récents scandales de corruption. Alors s'il n'est pas l'homme du changement radical, il a annoncé récemment dans le Straits Times, le principal quotidien de l'île, qu'il était prêt à tout revoir afin de répondre au mieux aux nouvelles aspirations de la population singapourienne. Et pour poursuivre le miracle singapourien, il est peut-être prêt à tout changer pour que rien ne change.
Marion Ziegfeld avec nous sur BFM Business, 19h11. On retourne sur les marchés tout de suite. Bonsoir Étienne Braque.
Bonsoir Guillaume.
Permettez de rappeler la clôture à la Bourse de Paris, CAC 40 qui grappille un petit peu de terrain encore. Ce soir, plus 0,17%. Nous, ça devient d'un banal, Étienne, nouveau record. En clôture, 8239 points pour l'indice parisien et des records à Wall Street apparemment.
En effet, sur le Nasdaq qui est sur un plus haut historique, sur le S&P 500 qui est également sur un niveau inédit, il n'y a plus que le Dow Jones qui est à 0,5% de son plus haut, avec une très belle séance aujourd'hui du côté des États-Unis parce que vous avez eu les chiffres d'inflation, ils étaient très attendus, c'était la statistique de la semaine à 14h30, le consensus s'attendait à 3,5% d'inflation le mois dernier aux États-Unis sur un an, c'est ressorti à 3,4. C'est la bonne nouvelle du jour, d'autant plus que depuis janvier, à chaque fois les chiffres d'inflation étaient supérieurs aux attentes. Donc là, ça y est, on a une inflation qui est toujours là. Alors elle ralentit, mais quand même, hein, plus 0,4% d'un mois sur l'autre, à cause notamment des loyers, hein, plus 5% les loyers aux États-Unis en l'espace d'un an. Mais désormais, vous avez des investisseurs qui se disent, bon, tout n'est pas perdu, il y aura peut-être une baisse des taux au mois de septembre aux États-Unis. L'obligataire se détend très nettement. Puis les Américains, quand ils ne savent pas quoi acheter, on l'a vu en début de semaine, ils achètent du GameStop, hein, quand même, qui a plus que doublé en l'espace de deux jours. Et puis surtout, ils reviennent sur Nvidia, qui va publier dans 10 jours ses résultats. Hein. Ça sera vraiment le temps fort la semaine prochaine. La valeur est proche de son record historique. Plus 3,4%. Vous avez Supermicro Computer qui reprend 11%. Apple, plus 1,6%. Au final, sur les 500 valeurs du S&P 500, vous avez 65 valeurs qui sont sur des plus hauts historiques. Donc voilà, tout est dit. Hein. Vous avez les valeurs technologiques qui continuent de booster la performance aux États-Unis.
Tout est dit, effectivement. Merci beaucoup, Étienne. Étienne Braque avec nous ce soir dans Good Evening Business. Il est 19h13. On revient dans un instant, bien sûr, avec nos experts, avec Audrey Tcherkov. De quoi est-ce qu'on parle jusqu'à 20h? De la Nouvelle-Calédonie, bien sûr. On parlera aussi aussi des Allemands qui annoncent 1 milliard d'euros d'investissement lundi en France et plus de 8 milliards 48 heures après en Allemagne. Ça fait forcément plaisir. Et puis la nouvelle énième mouture de MaPrimeRénov. Tout ça plus bien autre chose jusqu'à 20h évidemment. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h17, on est reparti jusqu'à 20h sur BFM Business. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir à tous.
Bien sûr, avec nous jusqu'à 20h comme tous les soirs. Et nos experts qui sont là pour refaire l'actu ensemble pendant près de trois quarts d'heure. Nathalie Janson est avec nous. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Professeur à Neoma Business School, Benjamin Coria est avec nous. Benjamin, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Professeur de sciences économiques à Paris 13, membre des économistes atterrés. Et Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlantico. Jean-Marc, bonsoir. Alors, on a beaucoup de choses ce soir. Évidemment, la Nouvelle-Calédonie. Oui. Emmanuel Macron, je vous le disais, a demandé au gouvernement de décréter l'état d'urgence sur place alors que le bilan des émeutes vient de passer à 4 morts. L'île est à feu, à sang. On ne compte plus le nombre de bâtiments, de magasins, d'entreprises qui ont été brûlés ou saccagés depuis 48 heures.
Et oui, on va écouter tout de suite ce témoignage que nous avons réussi à nous procurer, celui d'un gérant de plusieurs concessions automobiles basées à Nouméa. 3 de ces concessions ont pris feu. La facture va être très lourde. Laurent Joutot, 3 concessions donc auto ont brûlé, nous dit-il, et il y en a pour plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts. Écoutez.
Certaines concessions brûlent en ce moment. Qu'est-ce qu'il en restera demain matin ou tout à l'heure? La moitié, rien. D'autres concessions, notamment une ou deux, sont encore totalement intactes. Est-ce que ça va être le cas à la fin de la nuit? Aucune idée. Donc, chiffrer, c'est très difficile. Ce sont évidemment des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros. L'économie va mettre un bon moment à se remettre. Des hypermarchés ont brûlé, il va falloir les réapprovisionner, sauf que la chaîne est un petit peu cassée, la chaîne de réapprovisionnement. Donc, même si on réouvre demain, enfin, d'abord, j'aurai pas de clients, évidemment, puisque les gens auront d'autres soucis, mais au-delà de ça... toute l'économie va mettre un petit moment à redémarrer dans beaucoup de secteurs.
Et ce qui est très compliqué, c'est que l'économie locale est déjà fragilisée, puisqu'on le rappelle, elle repose en très grande partie sur l'exploitation des minerais de nickel, sauf que le prix a complètement dévissé à cause de la flambée des coûts de l'énergie, moins 45%. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une concurrence féroce du côté de l'Indonésie. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, de la Nouvelle-Calédonie et de son économie? Mais ça va être très compliqué de remonter la pente. On comprend que ça soit la priorité du gouvernement, Jean-Marc?
Oui, on comprend que ce soit la priorité compte tenu de la guerre civile qui est en train de se développer dans ce pays. C'est intolérable. Il y a 270 000 habitants, je crois. C'est vrai qu'il y a une composante économique et sociale qu'il faut traiter, qui est pas facile à traiter. Hein. On avait cru régler le problème il y a 10 ans. Bon, il se trouve que ça s'est détérioré. C'est vrai que la principale ressource, c'est le nickel. C'est vrai que la concurrence de l'Indonésie, plus d'ailleurs que la flambée des prix de l'énergie, hein, c'est l'Indonésie qui...
Elle fait monter sa production en puissance ces dernières années, terriblement.
Ça va être compliqué. Tout dépend. Et je crois que dans le pacte nickel qu'on avait fait passer il y a quelques années, au début du quinquennat...
Alors qui est censé redresser la filière,
censé redresser la filière, on avait surestimé un petit peu les commandes et les approvisionnements en nickel pour le commerce des batteries, puisque le commerce des batteries, il n'est pas ce que l'on avait prévu qu'il soit, ou ce que l'on a souhaité et qu'il voit. Donc, prendre ses désirs pour des réalités, c'est toujours un peu compliqué. Mais on a un vrai problème avec les territoires et les départements d'outre-mer en France. On ne sait pas les gérer.
Et on a les trois usines de production sur place de nickel, de traitement du nickel.
Il y a deux entreprises françaises, Eramet et Nickel.
SNL.
Ils sont en perte.
Glencore qui est parti.
C'est une très belle entreprise.
De la filiale, effectivement. Benjamin Coria, comment est-ce que vous regardez cette situation?
Écoutez, la situation économique, elle a été assez bien décrite. Hein. Il y a une érosion des conditions de reproduction autonome, si je peux dire, hein, du point de vue économique. Bon, reste un intérêt géopolitique qui est évident pour toute la zone maritime en Indo-Pacifique, et la France a subi un sérieux revers il n'y a pas très longtemps avec l'initiative américaine qui a repris la main en Australie.
Bon,
donc dans ces conditions, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre pourquoi on a allumé le feu C'est-à-dire, pourquoi est-ce que, par cette loi, on a voulu toucher à la chose qui est la plus sensible possible, c'est-à-dire changer le corps électoral dans un territoire minuscule qui considère qu'il est victime d'une colonisation de peuplement. Donc,
C'était prévu, ça, qu'on le change. Parce qu'il fallait intégrer dans le corps électoral gens qui n'étaient pas dans le corps électoral.
Non,
il y a 25 ou 30 000.
Mais sinon, il n'y aurait pas les émeutes qu'il y a, si c'était prévu, ça allait de soi. Bon, donc.
Je crois qu'ils ont.
Non, mais l'honnêteté exige de dire que, à partir de Nouméa, de 98, il y avait eu un compromis. Oui. C'est un compromis fait sur le fait que le corps électoral serait gelé pendant un certain temps.
Oui, mais on est au terme.
Mais vous savez très bien que le troisième référendum s'est fait sans le vote kanak.
Celui de 2021.
Et qu'il ne vaut rien. Donc je veux dire, on ne peut pas faire semblant. Ah, mais
c'est ça la démocratie.
C'est l'abstention à cause du Covid. Parce que les kanaks ont décidé de le bouder.
Parce qu'on
pensait qu'ils allaient le perdre.
Mais non, parce qu'on était en plein Covid et qu'il était absolument impossible pour eux, compte tenu des rites d'enterrement d'une île à l'autre, etc., de mobiliser leur population. Je veux dire, lorsque...
Ils n'ont pas été... pas été touchés terriblement par le Covid. Mais... Ils étaient en confinement naturel.
Oui.
Ils étaient en confinement naturel.
Si vous trouvez...
Vous aviez une quarantaine qui était imposée à l'entrée quand elle sortie.
Ce qui est certain, Benjamin, vous avez raison, après, c'est vrai que c'était aussi ça, la démocratie. On arrive, en effet, comme le disait Nathalie, à la fin du gel. Maintenant,
c'est ça qui est discuté.
Oui, d'accord. Mais alors, là où je vous rejoins, c'est que par rapport aux tensions avec les indépendantistes, on pouvait peut-être prévoir ça. Pour revenir au fait que la zone, que cette zone indo-pacifique est absolument essentielle et stratégique pour la France, puisque le FMI dit qu'elle représentera pour 50% de la création de richesse mondiale en 2040, on comprend bien évidemment la France n'a aucun intérêt à ce que ce conflit escalade, Nathalie.
De toute façon, du point de vue géopolitique, elle a aucun intérêt à ce que ça s'escalade. Bon, d'un autre côté, je ne suis pas une grande partisane des territoires d'outre-mer, donc je comprends la composante géopolitique, mais je ne soutiens absolument pas le reste.
Enfin, attendez, au moment où la Chine exerce quand même une pression de plus en plus importante dans le Pacifique, c'est quand même un point d'appui pour la France essentiel.
Je pense qu'on est dans une situation qui est très ambiguë et de toute façon on ne facilite pas non plus l'émancipation de l'île de ce point de vue-là.
Benjamin Coria, vous voulez finir?
Oui, non, mais j'aurais voulu finir mon argumentation. Donc, dans les conditions que l'on a dites, à savoir d'extrême fragilité de l'économie, d'enjeux géostratégiques considérables, de contestation interne du référendum, dont les Kanaks considèrent que c'est un déni des engagements pris dans la période antérieure, je répète, je ne comprends pas qu'on ait allumé le feu comme on l'a allumé. Il fallait s'y attendre à ce qu'il se passe cette chose-là. Alors, moi non plus, je suis pas du tout fanatique de maintenir une situation néocoloniale, mais ce que je comprends de la situation, c'est que les Kanaks étaient prêts à des compromis pendant encore longtemps. Ça veut dire que, bien sûr, ils voulaient récupérer davantage de souveraineté, mais pas de rupture avec la France. En tout cas, on n'a pas l'impression que c'est ça qu'ils voulaient. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, voilà. Il y a un plan, en tout cas, de soutien de la filière, parce que le sous-jacent de cette crise sociale, c'est aussi cette crise économique due à la dépréciation des prix du nickel. Il y a un plan qui a été présenté par le gouvernement, qui est prêt à remettre plusieurs centaines de millions d'euros pour soutenir la filière. Du côté de la Nouvelle-Calédonie, on est partagé entre indépendantistes et non-indépendantistes, parce que ce plan inclut une participation financière de l'ordre de 70 millions d'euros de la part des collectivités locales. Bref, cette filière est en train de mourir.
Duquel on doit créer un impôt nouveau, appuyé sur la période Covid, qui n'est pas fait encore.
Dans un territoire où les disparités socio-économiques
Les inégalités sont énormes. Mais le pouvoir d'achat est assez bon en Nouvelle-Calédonie.
Non, mais c'est pour ça qu'on met du feu dans une poudrière.
Mais encore une fois, Nouvelle-Calédonie a une vitesse.
Oui, Bien sûr.
Mais oui, mais non, vous je répète, dire, c'est incompréhensible.
Mais en même temps, à chaque référendum,
ce qui me trouble beaucoup, c'est que d'après ce que l'on me dit sur place, c'est que les Kanaks n'ont pas évidemment de modèle alternatif au niveau du développement économique que celui qui existait. Ça, on l'a pas trouvé. Si on savait, on le mettrait en place. Et par ailleurs, les sondages, les études en profondeur montrent que les jeunes Kanaks, la nouvelle génération, n'a pas de préférence, n'a pas de choix. De modèle de vie, de modèle de société. Oui. Ils ne veulent pas du modèle occidental, ils ne veulent pas du modèle nord-américain, ils ne veulent pas non plus du modèle pacifique. Et ils sont paumés, ils sont perdus là, dans cette. C'est ça qui explique en toujours partie le désordre.
Toujours est-il que les référendums se suivent et qu'à chaque fois le non à l'indépendance l'emporte.
Mais bien sûr, à chaque fois.
Non, mais voilà, attendez.
Il y a eu deux vrais référendums, hein, si je peux dire, qui ne sont pas contestables. Et comment dire, le non. À la sortie, si je peux dire, a décliné de l'un à l'autre. Il est passé de 56 à 53. Donc, il se serait passé quoi, là, dans des conditions normales? Non, mais on n'en sait rien. Non, moi, je me fais pas plus malin que je ne suis. Hein. On n'en sait rien. Voilà pourquoi, sur un terrain aussi miné, il faut procéder avec doigté et intelligence.
Mais bien sûr.
Il ne faut pas y aller à l'artillerie lourde comme on a fait.
Vous avez raison, Benjamin.
Il y a une espèce de passage en France.
On ne va pas refaire l'histoire.
Et on voit bien que ça ne passe pas.
Bien sûr. Non, mais on sent quand même, en tout cas, que le gouvernement en fait une priorité, puisqu'on en parlera tout à l'heure, eh bien Emmanuel Macron ne se rendra pas à Flamanville demain, justement parce qu'il veut se concentrer sur
le dossier. Ah, mais de toute façon, il n'a pas le choix, je veux dire. Il y a une situation de quasi-guerre civile, donc le malin, aller inaugurer Flamanville.
Ça fait 13 ans qu'on attendait quand même.
Oui,
mais bon.
Oui, ça, c'est une autre discussion qu'on va avoir.
On ne va pas prendre de retard à Flamanville.
Oui, oui.
Attendez, ça ne s'en sort pas dans une minute.
C'est lui qui va donner la
clé. Non, mais je sais qu'il est capable de faire beaucoup de choses.
Deux mois de plus sur 7 ans, alors vraiment, c'est très
important. On va en parler dans un instant. On va en parler dans un instant, justement, de Flamanville. Bah, il est presque 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h31 sur BFM Business. Nous sommes avec Benjamin Coria, Nathalie Janson et Jean-Marc Sylvestre, qui sont nos experts du soir. Alors, séquence énergie qui était prévue à l'agenda du président. Il devait initialement se rendre à Fécamp aujourd'hui en Normandie pour inaugurer le troisième parc français d'éolien en mer. Déplacement annulé à cause des événements en Nouvelle-Calédonie. Eh bien, il ne se rendra pas non plus à Flamanville.
Non, mais on va quand même en parler un petit peu de Flamanville parce qu'apparemment, il y allait et c'est fait pour à l'occasion de la fin du chargement de l'uranium dans les cuves, qui est une étape très, 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 très importante. Écoutez ce que disait Agnès Pannier-Runacher ce matin pour elle. Voilà la preuve éclatante qu'on avance sur la relance du nucléaire en France, finalement.
Le nucléaire, le retour du nucléaire, c'est à la fois notre capacité à démarrer un nouveau réacteur nucléaire, mais c'est également la mise en chantier de 6 nouveaux réacteurs, et c'est le fait que nous sommes à nouveau le premier exportateur d'électricité nucléaire. C'est bon pour notre compétitivité. C'est bon pour le climat puisque c'est une énergie décarbonée et c'est le travail acharné des équipes de l'État et surtout d'EDF. Et je veux remercier ici les agents d'EDF qui montrent que la France est une grande nation nucléaire.
Bon, il n'y aura peut-être pas Emmanuel Macron, il y aura peut-être un ministre demain.
Ah bah sûrement, il y aura quelqu'un. Et peut-être plusieurs d'ailleurs.
Oui.
Non mais ça vous fait rire Benjamin Coria, mais je rappelle quand même que, alors en effet, on a 13 ans de retard, en effet ça nous coûte quelques milliards de plus que ce qui était prévu, mais enfin quand même on y est. Et je rappelle aussi que cette EPR a une capacité en termes de puissance qui est absolument inédite comparée à tous les réacteurs nucléaires au monde, que ce soit les Chinois, les Coréens ou les Russes. On peut en être fiers.
Parce qu'il faut parler, coût, il faut parler rentabilité, il faut parler sécurité. Donc, à condition que sur les prochains EPR, on n'ait pas les mêmes dérives de coûts, même de loin. Bon, à condition qu'on n'ait pas les mêmes dérives de temps, parce que alors du coup, la transition
dans 20 ans
écologique, elle est complètement ratée.
Les dérives de coûts, elles ont déjà commencé, Benjamin.
Mais bien sûr,
au début, on parlait de 50 milliards pour les 6, maintenant on parle de 70 milliards pour les 6.
Bien sûr. Donc c'est pour ça.
Si ce n'est que ça,
ça va.
Mais c'est pour ça que c'est la tare fondamentale fondamentale de la question nucléaire. C'est qu'elle n'est jamais débattue, mise sur la table.
On n'a pas arrêté pendant 20 ans.
Oui, alors
on n'a pas arrêté pendant 20 ans.
On a fait du stop and go incessant, mais justement, parce qu'on a eu de cesse qu'on débatte.
Et la relance du programme nucléaire, elle s'est faite comment? Elle s'est faite par l'annonce de France 2030 sous la forme de mini-réacteurs et un an et demi plus tard, sous la forme de super-giga-réacteurs. Ah oui, on en parle. Oui, on en parle. Voilà comment se fait la politique. Donc, moi, je suis pas un fanat du nucléaire, comme vous pouvez l'imaginer. Mais j'entends que c'est une énergie décarbonée. J'entends les avantages qu'elle peut présenter. Est-il possible d'avoir une discussion apaisée, tranquille, sur qu'est-ce qu'on fait du nucléaire, en quelle quantité, comment on assure la jonction entre le nucléaire et le reste? C'est impossible, c'est impossible.
Bah, l'idée est quand même que l'avenir du mix énergétique français, l'idée c'est quand même l'avenir du mix énergétique
réglé parce que tous les spécialistes
le nucléaire
de l'énergie, vous permettez, vous diront que on ne sera jamais prêt dans la montée en charge du programme nucléaire pour assurer la jonction avec les impératifs de décarbonation.
Mais alors, Alors à ce moment-là, il faut arrêter ou il faut continuer, c'est bien ce que je dis.
Mais puisque ça, on sait que ça ne marche pas, discutons de quelle est la place du nucléaire par rapport au reste et comment on assure la montée en puissance conjointe. C'est ça la discussion.
Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Depuis des années, j'entends les adeptes du principe de précaution nous annoncer un certain nombre de choses qui doivent pas se faire. Mais franchement, si on avait dû appliquer le principe de précaution, Christophe Colomb n'aurait jamais découvert l'Amérique. Hein. Oui. Je vous signale. Et peut-être qu'on ne serait même pas mariés, d'ailleurs, parce que, franchement...
J'ai parlé de la montée en puissance et de la jonction avec les autres énergies pour permettre de satisfaire à nos obligations en matière énergétique et environnementale.
Mais nos obligations en matière énergétique et environnementale, c'est nous qui nous les sommes fixées.
Ah oui, ça, si vous vous asseyez.
La date de 2035, elle a été fixée. Bon, on est les seuls d'ailleurs actuellement à vouloir la respecter
par tous les scientifiques de la planète comme une date déjà très tardive.
Non, Nathalie, je me méfie de tous les scientifiques de la planète.
Nathalie, six nouveaux EPR dans les tuyaux, façon de parler. Le premier d'entre eux est censé démarrer, je vous rappelle, en 2035. C'est demain.
Oui,
c'est dans
11 ans, 2035. C'est ça,
problème. Nathalie, comment est-ce que vous voyez ça, vous?
Je pense que oui, de toute façon, toute cette situation, elle est due à cette hésitation qu'on a eue pendant des années. C'est-à-dire qu'effectivement, si on avait été plus convaincu depuis le début sur le nucléaire, on n'en serait pas là. Maintenant, est-ce qu'on aurait dû être convaincu depuis le début? J'en sais rien non plus. Puisque... Alors, moi, ce qui m'amuse, c'est effectivement le renversement total, c'est-à-dire qu'on est passé de « Ah oui, il y en a peut-être qui ont des cancers à cause de ça. » Enfin, moi, j'ai habité près effectivement de toute cette région où il y en a plein. Je veux dire, on en a plein des histoires là-dessus. Voilà, que les jeunes filles ont des hormones différentes, qu'il y a des fruits qui ont des formes différentes. Enfin, que sais-je? Et tout d'un coup, on n'entend plus parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était super décarboné, donc hop, à la poubelle tout ce qui n'était pas bon.
Et maintenant,
on en a besoin. Moi, c'est ce qui m'énerve le plus. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un. Mais bon, en même temps, je ne peux pas effectivement vouloir à ceux qui. Parce qu'effectivement, qui peut savoir que vraiment, ça va vraiment être les plus qui l'emportent contre les moins? On ne peut pas, à moins d'expérimenter. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup. On a eu beaucoup d'errements sur cette question-là. Qui nous explique aujourd'hui pourquoi on en est là et pourquoi on dépense autant? Parce qu'en fait, c'est bien là où est le problème, c'est que quelque chose qui aurait pu finalement être une énergie pas chère devient en fait une énergie finalement chère quand même, parce que on a.
Alors ceci dit, si on n'avait pas eu toutes ces hésitations sur le nucléaire, comme vous le dites, ça nous aurait coûté quand même beaucoup moins cher l'année dernière et l'année précédente.
Complètement, complètement. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que les hésitations, elles nous coûtent aujourd'hui effectivement parce que on a tardé, donc elles nous coûtent et effectivement elles nous coûtent aussi. Parce que, comme il a été répété plusieurs fois, on a aussi eu, on a moins de gens qualifiés qu'on en avait avant.
De toute façon,
Si on a décidé d'y aller, mettons le paquet si on veut y aller, mais ça ne résout pas tout.
De toute façon, vous direz ce que vous voudrez, la machine est lancée, si vous perdez les tuyaux, ils verront le jour.
Et juste quand même, le sujet de la formation était censé être évidemment le sujet clé du discours d'Emmanuel Macron demain. Alors finalement, il n'ira pas. Mais enfin, on sait qu'on va mettre aussi la gomme sur ce sujet-là. Pour faire revenir les talents et faire revenir le savoir-faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin que Flamanville s'ouvre et se lance pour avoir cette vitrine du savoir-faire. nucléaire français.
Je voudrais simplement, mais sans provoquer mon voisin et ses énervements, mais quand on a beaucoup hésité, c'est vrai,
oui.
Tous les scientifiques ont développé leurs avis, c'est vrai, mais il faut reconnaître quand même que dans ce dossier, il y a eu des influences et des pollutions idéologiques, comme dans aucun autre dossier.
L'influence allemande
L'influence allemande a été terrifiante pour nous emmener dans le mur du gaz sur Russie.
Il y a surtout eu l'influence de Fukushima.
Mais l'influence de Fukushima,
c'est arrivé tardivement par rapport à...
C'était pas un accident nucléaire. C'est Tchernobyl.
Oui, bien sûr. C'est une catastrophe naturelle.
Sauf que les Allemands, du jour au lendemain, font Kazakh.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Non, mais même Greta Thunberg elle-même est revenue sur le sujet en disant qu'en effet, l'énergie nucléaire a été la plus décarbonée et on en a besoin.
C'est ça qui a motivé le choix idéologique. Allez, regardez ce qu'a dit Madame Rousseau, Sandrine Rousseau, encore aujourd'hui.
Non, mais moi, je plaide pas pour l'abandon du nucléaire.
Non, mais vous l'aimez bien. Je sais bien, vous l'aimez bien.
Sandrine Rousseau ou le nucléaire?
Oui, Sandrine Rousseau.
Le nucléaire.
Bon, allez.
Alors là, franchement...
Avançons. Est-ce que vous avez été froissé comme le gouvernement a dû être froissé aujourd'hui parce qu'a annoncé Amazon? Rappelez-vous, lundi, Amazon annonce 1,2 milliard d'euros d'investissement en France dans le cadre de choses français. Alors aujourd'hui, patatras, ils annoncent plus de 7,4 milliards d'euros en Allemagne dans le cloud. C'est Amazon Web Services qui investit 6 fois plus chez nos voisins allemands. Enfin, ça fait plaisir quand même de ce genre d'annonce.
Oui, mais on ne peut pas tout gagner, Guillaume.
Microsoft fait la même chose.
Microsoft a investi 4 milliards en France.
Elle a investi beaucoup plus en Allemagne.
Mais oui.
Enfin, on a aussi Meta qui a investi.
Oui, bien sûr.
On ne peut pas gagner sur tous les fronts. On ne peut pas dire que la France attire aucun investissement. On est quasiment égaux par rapport à l'Allemagne.
Non, mais bien sûr. Ce qui s'est passé est intéressant. Mais il faut le relativiser par rapport à ce qui peut se passer dans notre pays et les voisins. Il faut le relativiser aussi par rapport à ce que ça représente en financement. Et puis, chose un peu intéressante, la publicité qui est faite sur l'attractivité française porte évidemment positivement sur les investisseurs étrangers. Ce que je ne comprends pas, mais on en a déjà parlé ici, c'est pourquoi on ne fait pas cette communication d'attractivité en direction de l'épargne française. Pourquoi a-t-on besoin d'aller chercher des investisseurs étrangers qui vont prendre du pouvoir dans nos entreprises, qui vont nommer des administrateurs, qui peut-être nommeront même des dirigeants dans ces entreprises-là, c'est-à-dire à l'encontre de notre
épargne souveraineté. Mais parce qu'on a essayé de lancer des tonnes de produits d'épargne pour drainer l'épargne, ça n'a jamais marché.
Et l'épargne, c'est le grand emprunt, le produit d'épargne.
Mais alors pourquoi laisse-t-on ces tonnes d'épargne dormir dans les caisses d'épargne?
Parce que les Français ont envie de les laisser dormir.
Pour quelle raison? Pour financer le déficit budgétaire.
Oui, exactement. Ouais, voilà,
en partie parce que les Français n'ont pas envie de sortir.
Et de toute façon, je dirais que la culture moyenne et les incitations qui sont données n'ont jamais été en faveur d'une épargne qui allait vers le risque, bien sûr. Et on a beau... on s'est toujours interdit d'avoir en plus des fonds de pension, ça rajoute à la culture.
Oui,
de toute façon, ils sont diabolisés. Donc, en les diabolisant, on ne peut pas non plus habituer les Français à avoir autre chose qu'effectivement ou des comptes courants ou des produits d'assurance vie qui sont tous des produits d'assurance vie. Ils vont effectivement acheter que de la dette publique.
Très bien,
ils n'ont pas envie d'investir dans l'économie.
Simplement que le crédit impôt recherche, ça marche vachement bien.
Oui, par contre,
on revient dessus.
Les Français n'ont pas envie d'investir.
On ne peut pas revenir dessus.
Les Français n'ont pas envie.
On ne peut pas revenir dessus.
Les Français n'ont pas envie d'investir.
Par le gouvernement.
Les Français n'ont pas envie d'investir dans l'économie réelle, c'est comme ça, Benjamin.
Il y a plusieurs questions différentes, là. Il faut les traiter une par une. Alors, la première, c'est faut-il trouver d'autres débouchés à l'épargne et trouver des formules d'incitation qui lui permettent de s'investir dans l'industrie? La réponse est oui.
Bien.
Ces produits doivent-ils être nécessairement des produits en action, porteurs de risques, etc.? La réponse est non.
Pourquoi?
Pourquoi?
Mais pour quelle raison?
Parce que vous l'avez décidé? Non,
parce que Benjamin Corian n'est pas libéral.
Mais d'une part parce que je suis pas libéral et d'autre part parce que je vois ce qui se passe aux États-Unis du point de vue de la protection, parce que la question qui est derrière,
des épargnants,
c'est pension, dans lequel en fonction des évaluations boursières, les retraités mangent ou ne mangent pas.
Non, faut pas exagérer, parce qu'il y a des
cajots dans les yeux. Je n'arrête pas.
Arrêtez.
Parce que
Là, vous n'allez pas être d'accord, c'est sûr.
Regardez, regardez, attendez la sociologie américaine. En moyenne, il y a une catégorie sociale qui aujourd'hui est très contente de la situation, ce sont les retraités.
Laissez Benjamin finir.
Les subprimes, ils étaient comment et pendant combien de temps après les subprimes? C'est ça le problème des retraites, c'est qu'on peut pas se permettre un jour de manger et le lendemain de pas manger.
Non,
ça c'est un point. Mais si, bien entendu, bien entendu.
Nathalie,
de tout, messieurs, grâce
à l'effondrement des actions.
Attention, on va couper les micros
sur les retraites.
Laissez Nathalie parler.
De toute façon, les fonds de pension, c'est une chose, mais l'attitude globalement des épargnants, c'en est une autre. C'est-à-dire que il n'y a pas que les fonds de pension qui expliquent ce qui se passe aux États-Unis. Et bon, et effectivement, s'il peut y avoir des moments de où on est exposé avec sa retraite qui est investie dans les actions, déjà c'est pas pour toujours. Et deuxièmement, il faut aussi savoir, c'est un risque qu'on connaît. C'est-à-dire que un retraité qui a effectivement sa retraite qui est en fonds de pension, il a aussi diversifié son portefeuille. Donc tout le monde n'est pas non plus complètement exposé sur la volatilité du marché. Il faut quand même être clair, ça dépend des portefeuilles que vous avez choisis. Oui. Et puis, si vous voulez, je pense que la différence justement entre ce que les États-Unis a pu nous dépasser en termes de différence de croissance depuis justement 2008 s'explique justement parce qu'on n'a pas les mêmes dynamiques de financement de la croissance.
Mais alors, pour en revenir au sujet de l'attractivité française, est-ce que vous dites que cette décision prise par Amazon d'aller en Allemagne plutôt qu'en France, d'investir cette fois plus en Allemagne qu'en France, c'est quand même assez symptomatique d'une tendance de fond ou que finalement la tendance de fond, c'est Choose France 2024 qui tire encore un bilan record avec 15 milliards d'euros d'investissement.
On a quand même un problème dans notre panel d'attractivité. Mmh. C'est vrai que le pays est attractif, il est beau, etc. On y mange bien, c'est bien. Mais il y a deux problèmes, deux défauts. Un, la situation de l'emploi, elle est bonne, mais elle est sous tension. On ne trouve pas les gens à employer dans la formation et dans l'expertise.
La deuxième chose,
c'est que pour faire une usine en France ou un entrepôt Amazon, il faut à peu près 5 ans et en Allemagne, 6 mois.
Mais alors attendez, pardon, mais ça c'est la grande promesse du gouvernement actuel. Votre Premier ministre a annoncé la simplification et la promesse.
Non, mais chez nous, il faut nourrir
d'accélération.
Je ne me suis pas encore exprimé sur cette annonce de 8 milliards. Alors je voudrais quand même,
dire un mot.
Et le mot que je voudrais dire, c'est que si on faisait un peu de la comparaison internationale, on arrêterait d'inviter tous les chefs d'État du monde à Versailles en allumant des feux d'artifice pour 15 milliards d'investissements annoncés sur plusieurs années.
Ça allait chercher les emplois avec les dents. C'est ça.
Mais c'est pas avec les dents là, c'est avec les quenottes. Parce qu'il se passe rien. Un seul investissement d'une seule entreprise, c'est la moitié de tout ce qu'on a été capable de réunir à Versailles. Donc, et c'est la même chose sur l'attractivité. Quand on dit la France est première, etc., si elle est ramenée le nombre de projets à sa population, elle est huitième. Si elle est ramenée au nombre d'emplois créés, elle est quasiment dernière. L'Espagne est à 200 personnes, la France à 30.
Non, mais le sujet, c'est la productivité.
On nous fait un numéro autour de l'attractivité qui n'a absolument rien à voir avec les chiffres des comparaisons internationales.
Vous savez très bien d'où c'est né, Tchouz. C'est né du constat qu'en fin janvier, les industriels du monde entier vont à Davos pour travailler, qu'en allant à Davos, ils s'arrêtent à Paris pour visiter la Tour Eiffel ou aller manger chez Ducasse. Et puis après, vaut mieux qu'ils restent ici et qu'ils travaillent un peu. Voilà. Et la preuve, c'est qu'en 5, 6 ans, 7 ans même.
Oui, absolument. Ans, chaque année, on voit les investissements augmenter.
Personne ne peut dire qu'il y aurait eu davantage ou moins d'investissements sans
Je suis d'accord sur le fait que ce sont les investissements qui, de toute façon,
auraient été annoncés.
C'est vrai pour le coup.
Donc vous voulez les priver de Versailles? Sans hésiter.
Allez, parlons logement, puisqu'on parle de Versailles, parlons logement.
Voilà, alors nous sommes de nouveau le 15 mai, messieurs, ne soyons pas dissipés. Il y a de nouveau du changement du côté de MaPrimeRénov, une nouvelle version plus accessible que la précédente et qui fait du dégât.
Bah oui, parce que la preuve, au premier trimestre, le nombre de logements rénovés par MaPrimeRénov a été divisé par 2 par rapport à la même période de l'an dernier. Pourquoi? Parce que depuis le 1er janvier, on avait exclu, vous savez, ce qu'on appelle les monogestes du dispositif. En gros, pour bénéficier des aides, il fallait faire plusieurs types de travaux en même temps. Là, de nouveau, une seule œuvre de réhabilitation suffira. Que ce soit les combles, les fenêtres ou autres, ça redevient simple. On avait complexifié le truc au maximum.
Rétropédalage.
Parce que les finances ne permettaient pas d'arroser tout le monde, finalement. Sauf que voilà.
on se saisit plus de ma prime rénov. Bon, c'est comme une bizarrerie à la française.
J'ai commencé à recevoir sur mon téléphone des annonces de 06 ou 09 en disant est-ce que vous avez bien vu les.
Non, mais ça, c'est
de l'opportunisme.
Ouais. Non, mais
c'est du marketing.
Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a un, le fait qu'avec ma prime rénov, qui dans son principe est une chose que moi je défendrai parce que c'est bien à la fois pour le l'usager si je peux dire
pour le consommateur. Benjamin, on est bien d'accord pour dire que pour certaines personnes ça change tout.
Bien sûr, bien sûr, et c'est bon pour l'énergie, c'est bon pour plein de choses. Le seul problème, c'est que en cette matière, on a eu une politique absolument erratique, hein, si je peux dire. Bon, on comprend pas très bien d'ailleurs pourquoi à certains moments on pousse et à d'autres moments on baisse. Bon, là, ce qui m'embête, c'est que cette mesure de reprise qui en soi est bonne, ça revient à baisser complètement le niveau d'exigence qu'on avait tenu à un certain niveau et à mon avis qui se justifiait pleinement.
Oui, mais à un certain niveau, ça faisait quand même un reste à charge qui
alors,
était plus élevé.
C'est vrai qu'il y a un équilibre à trouver, mais là j'ai l'impression qu'on est repassé en dessous de la ceinture. Voilà, c'est
donc
c'est
on trouvera jamais le bon équilibre finalement sur ma prime
incitateur fiscal. Oui, non, mais c'est on n'a que ça d'ailleurs pour.
Oui, enfin, quand même, attendez, parce que la reprise du dispositif, elle va permettre à des propriétaires de maisons, par exemple, qui veulent isoler les murs à l'extérieur, de diviser quasiment le coût des travaux par deux. Donc, ça reste énorme, Nathalie.
Oui, oui, mais c'est comme ça a été dit. Le problème, c'est que c'est des incitations. Enfin, il y a un problème de visibilité, de stabilité, de voir si vraiment c'est ça plutôt qu'un autre dispositif. Voilà, je suis pas persuadée que ce soit la meilleure solution pour avoir quelque chose de long terme. D'avoir des subventions comme ça. Oui. Puisqu'on va changer les critères. Moi, je suis très dubitative. Exactement. Et vous avez des comportements opportunistes. En fait, de la part, comme Jean-Marc le disait, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'engouffrent là-dedans comme une activité qu'ils vont avoir quelques temps.
Fiscale.
Donc, ce n'est pas idéal.
Puisqu'on parle logement, on a une minute pour parler un petit peu de ces chiffres de l'Observatoire Clameur qui sont sortis hier, qui nous disent que les prix à la location s'emballent de plus en plus. Les studios, alors les deux pièces, plus 2% au plan national sur un an. Les studios, plus 4%. On nous dit du côté des étudiants, ça commence déjà à s'agiter là en mai, à des niveaux que généralement on ne voit pas avant septembre. Donc là, ça commence véritablement à devenir très
affolant. Et alors, avec les Jeux Olympiques à Paris, encore
Nathalie.
Alors là, je vais faire ma petite minute. Voilà. Argentine, puisqu'il se trouve que une des premières mesures que nous a fait le fameux Milei, c'est d'aller réformer le marché de la location en Argentine, qui était juste un cauchemar, mais qui est un cauchemar qu'on a essayé de faire en France aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient limité les locations à 3 ans, que lorsqu'ils louaient, ils n'avaient pas le droit de louer en dollars, ce qui pour une économie très exposée à l'inflation, je vous raconte pas. Plus une indexation des salaires avec un mixte d'inflation et de hausse des prix, de hausse des salaires, donc c'était un calcul mixte. Évidemment, sans grande surprise, l'offre s'est tarie. Ça, c'était en 2020. Donc, on a eu un tarissement énorme du marché de la location. Les prix ont explosé, bien évidemment. Et du coup, la première chose qu'a fait Milei, c'est de tout déréglementer. Donc, il a enlevé tout ça, il a ouvert le bail à n'importe quelle durée et il a inclus en dollars. Donc, juste pour donner une idée, donc les locations de Airbnb et qui étaient donc du coup les propriétaires, qu'est-ce qu'ils faisaient? Soit ils voulaient le vendre, parce que à la vente on avait le droit d'être payé en dollars. Donc c'est pour ça, du coup, c'était mieux.
Ah oui.
Soit évidemment, ils faisaient comme en France, parce qu'on a eu la même chose en France. Vous rappelez-vous quand on a mis ça, moi je le faisais. Étudiais à mes étudiants parce que c'était vraiment cousu de fil d'or. Et on a mis les réglementations, le plafonnement des loyers. Ça n'a pas fait deux plis. Tout le monde est allé sur Airbnb. Les Argentins ont fait pareil. Donc on est passé de 10 000 logements en 2019 à plus de 30 000. Et là, effectivement, depuis là, les loyers donc pour un deux chambres à Buenos Aires étaient passés de 18 000 pesos à 334 000 quand même. Et donc aujourd'hui, il a fait ça et on est arrivé à une offre de 50% en plus de logements depuis le 1er janvier où il a fait sa réforme et les prix ont baissé entre 20 et 30%.
Bravo Monsieur Mila. Je ne vais pas avoir le temps de faire réagir. On est au bout, messieurs. Il reste deux minutes, un peu plus de deux minutes pour l'extra time comme tous les soirs. Vos avis du soir.
coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes chrono. Jean-Marc, est-ce que vous voulez commencer? Allez, 30 secondes.
Bien, pour une fois, moi, je voudrais donner une fleur à Emmanuel Macron pour sa petite phrase dans Bloomberg concernant la possibilité que pourrait avoir la Société Générale de trouver un acquéreur ou un adossement dans une banque européenne. Bon, alors ça a fait bondir tous les souverainistes, oui. Ça a fait bondir
le titre aussi,
les autorités. Non, bon, mais enfin, il fait son travail. C'est pas lui qui va vendre la Société Générale, mais que ça libère au moins le champ. La Société Générale est en difficulté, il faut le savoir. Elle cherche une stratégie, elle cherche un adossement. Elle ne le trouvera pas en France. Elle fait un an ou deux qu'elle le cherche. Elle le trouvera à l'étranger.
Bon, le message est passé. Benjamin Coria.
Ben, on va rester dans les banques, mais cette fois, c'est un coup de gueule. Il y a des chiffres qui viennent de sortir et qui confirment déjà ce qu'on savait, qui expliquent qu'entre 2015 et 2022, les banques au niveau mondial ont dépensé 7 000 milliards de dollars pour financer les hydrocarbures et en particulier, bien sûr, la recherche de nouveaux hydrocarbures et l'exploitation de nouveaux hydrocarbures en contradiction complète avec toutes les recommandations du GIEC. Et les Français tiennent plus que leur part puisque les banques françaises
et oui.
y ont consacré 2 000 milliards de dollars. Alors voilà, si vous voulez, moi je veux bien qu'on se gargarise des énergies décarbonées, etc. Pendant ce temps, je veux dire, l'argent coule sur le pétrole.
Le coup de gueule de Benjamin Coria. Nathalie, c'est à vous, 30 secondes.
Bon, bah, décidément, on va finir avec les banques et je vais donc être contre.
Alors, c'est pas Javier Milei,
voilà.
Ce soir.
J'avais choisi, mais je suis contre. Puisque moi, j'ai dit que, en fait, j'ai pas du tout aimé justement que Emmanuel Macron fasse sa sortie sur l'union bancaire et dise qu'en fait c'était une voie de sortie possible. Je ne nie pas ce qui a été dit sur la Société Générale. Je dis simplement que le marché bancaire européen est extrêmement protégé et que moi j'aurais préféré qu'il ouvre sur le marché des capitaux et qu'il en fasse beaucoup moins sur les banques.
Et ben voilà, le fera avec le rapport Noyer.
Christian Noyer sera donc l'invité d'Edwige Chevrillon demain à 18h10. Beaucoup de questions à lui poser. Bah, c'est terminé. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. C'était une belle émission. Nathalie Janson, Jean-Marc Silvestre et Benjamin Coria. À très vite pour nouvelles aventures. 19h55, c'est fini.
Eh oui, c'est terminé. C'est passé très vite comme tous les soirs. La bonne nouvelle quand même, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est bfmbusiness.com. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain soir.
Bah, bien sûr, on revient à 18h. Dans un instant, François Sorel, Tech&Co. Bonne soirée.
À demain.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.